blanche. Il avait cofondé Criteo, il l'a fait rentrer au Nasdaq et il semblerait qu'une réussite peut en cacher une autre. Il est reparti de plus belle dans une nouvelle aventure entrepreneuriale avec Lifen, entré cette année au Next 40. Bienvenue dans 40 nuances de Next, bienvenue dans 40 nuances de Franck Leway.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech, Oracle et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. On ne débute pas un 40 nuances de Next sans la fiche technique, pratique et informationnelle de mon compère Olivier Mathieu, que je suis ravi de retrouver.
Eh bien, moi aussi, salut Thomas et bonjour Franck. Je suis ravi de te recevoir. Alors, on se connaît depuis longtemps puisque j'avais été avec Price Minister, un des premiers clients de Criteo. Donc, on se fréquente depuis longtemps. On se connaît pas si bien. Donc, ça va être l'occasion de faire plus ample connaissance. Alors, Franck Leway, tu l'as dit Thomas, c'est le fondateur de cette première licorne un peu emblématique française qui a lancé aussi ce mouvement, qu'aujourd'hui on est en train de célébrer avec le Next 40, avant que le Next 40 n'existe, qui était Criteo, qui faisait du retargeting marketing. Alors, Franck Leway est associé avec Alexandre Ducaert, Étienne de Police, mais aussi Philippe Douste-Blazy, un ancien ministre. Alors, on le qualifiait en off peut-être de cofondateur émérite. Tu pourras nous raconter comment est-ce qu'il est arrivé dans cette aventure. Donc, Lifen, en résumé, ça a développé une plateforme de communication médicale afin de faciliter les échanges entre les professionnels de la santé et les patients. Donc, de manière un peu plus pratique, tu me corrigeras évidemment si c'est pas exact, l'entreprise propose une plateforme qui permet aux médecins d'envoyer des documents médicaux à tous leurs correspondants, qui peuvent être des confrères, des patients, des établissements du secteur médical, évidemment. La start-up a été fondée, alors c'est plus une start-up, mais à l'époque, une start-up fondée en 2015, je crois. Il y a eu 50 millions d'euros de levée l'année dernière, en novembre 2021, et 20 millions d'euros avaient été levés en 2019. Alors, les solutions de l'IFEN s'adressent à plusieurs publics. D'abord, les établissements de santé, à la fois privés et publics, aux secrétaires médicales, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, et aux patients aussi, qui peuvent consulter leurs documents médicaux depuis leurs ordinateurs ou leurs smartphones. Donc, j'ai regroupé quelques chiffres. Tous les mois, l'IFEN envoie 2 millions de documents médicaux à 240 000 médecins. Tu nous corrigeras si ça a grandi ou dans quelle est la tendance. En termes de RH, vous annonciez 160 personnes au moment de la levée de fonds et tu nous as dit être déjà 170, mais avec un objectif de recruter 200 personnes de plus. Donc, comment est-ce qu'on gère cette croissance? Ça va nous intéresser énormément. 630 établissements sont clients au moment de la levée de fonds. Il faudra peut-être réactualiser ces chiffres. Donc, 2 millions de patients par mois, je le disais. Objectif de déploiement dans 1500 hôpitaux supplémentaires. Et en plus, ce sera peut-être intéressant aussi de reparler des effets Covid, parce que c'est toujours un sujet pour les startups en général, mais dans la question de la santé en particulier, et notamment de la digitalisation de la santé, évidemment, on est au cœur du sujet, avec des gros enjeux, notamment sur la sécurisation des données, la confidentialité, dont tu nous disais que c'est très important, y compris au sein même de l'équipe, de l'organisation des bureaux, mais évidemment au niveau informatique, par rapport à la confidentialité, parce qu'on parle de données privées, mais aussi aux questions de cyberattaques qui nous ont beaucoup préoccupés, notamment pendant ces questions de Covid. On sait qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques, et puis encore aujourd'hui, peut-être dans l'environnement d'une guerre, Russie, Ukraine, etc. On sait que la cybersécurité, on en avait parlé dans le podcast de Vade, c'est très important. Voilà.
Et je vous propose de donner la parole à Franck juste après ce jingle. On a beaucoup attendu, mais la parole est à toi. Pitch of a pitch. Pitch of a pitch. On va aller un peu plus loin que le pitch. Ensemble, on va essayer de comprendre ce secteur que tu tâches de conquérir depuis maintenant donc 2015. 7 ans, c'est à la fois beaucoup et c'est très court pour chambouler un marché. Aujourd'hui, comment tu expliques l'IFEN à tes enfants? Parce que je crois que tu es papa. Donc, comment on explique ça à de jeunes enfants?
J'ai 3 enfants, effectivement, qui sont encore assez jeunes.
comment j'explique l'IFAN à des jeunes enfants? En gros, c'est la façon la plus simple, peut-être, c'est de dire que le secteur de la santé, de manière générale, est extrêmement en retard sur les autres secteurs dans la digitalisation. Je pense que c'est 15 à 20 temps plus en retard que la banque, qui n'est pas non plus hyper en avance par rapport aux autres secteurs. Juste pour donner un exemple, hein, ça fait 20 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne. Qui d'entre nous a son compte bancaire en ligne aujourd'hui? Donc c'est un secteur qui est extrêmement difficile à pénétrer, à réformer, à digitaliser. Et pourtant, on a énormément besoin de digital dans la santé, parce que vous le savez tous, on a eu le Covid qui était finalement une illustration du fait que quand il y a une demande accrue de soins, en fait le système de soins est assez vite
saturé
et on sait malheureusement tous en fait dans tous les pays occidentaux dans 10 ans on aura 30% de plus d'octogénaires qu'aujourd'hui, on aura des gens qui ont plus de pathologies chroniques qu'aujourd'hui, donc en fait une augmentation, je dirais, massif de la demande de soins, alors qu'on n'aura pas plus de médecins dans 10 ans, on n'aura pas plus d'hôpitaux dans 10 ans, et donc en fait c'est maintenant que le secteur doit complètement digitaliser
c'est pour gagner ces fameux petites minutes de temps quotidienne ou par heure qui fait qu'on est capable de répondre à une demande accrue.
C'est un système de soins qui est déjà en souffrance aujourd'hui. Une fois de plus, les médecins étaient en grève avant le Covid, aux urgences à l'hôpital public. C'est un secteur qui depuis 20 ans à des budgets qui s'érodent chaque année et du coup on rogne un petit peu chaque année sur tout et du coup c'est un secteur qui a énormément besoin d'innover, parce que si on n'innove pas on n'aura pas assez de temps médical pour soigner les
Qu'est-ce que quand tu rentres dans le détail, parce que tout le monde s'est passionné pour le sujet de la santé du fait du confinement et de la pandémie,
on est tous officiellement biologistes
on devient tous un peu des spécialistes, un peu comme on est tous des entraîneurs de foot quand il y a un match de l'équipe de France. Mais la question que, un peu provoque, parce que évidemment, nous on connaît bien le monde du numérique, on comprend que ça peut augmenter l'efficacité du parcours du patient, par exemple. Mais est-ce que tu peux être plus clair sur qu'est-ce que ça peut vraiment apporter? Parce qu'on parle d'abord de d'autres priorités, le nombre de lits, par exemple, le matériel, la surcharge des urgences, la fatigue des soignants. Or, tout ça, ça se digitalise pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin de matériel, il y a besoin de temps et de gens qui ont besoin de reconnaissance, peut-être d'être mieux payés ou d'avoir des horaires plus aménagés, etc.
En fait, si tu prends l'analogie de que tu connais bien, comment le commerce est devenu du e-commerce, cette évolution qui a été massive, la question que tu peux poser, c'est comment l'hôpital devient un e-hôpital? Dans le sens où aujourd'hui l'hôpital est uniquement physique, donc faut se déplacer pour aller voir son médecin, aller voir faire un traitement, que sais-je. Demain l'hôpital sera digital first, dans le sens où tu as un cancer du poumon par exemple. Aujourd'hui, si tu veux le meilleur traitement, faut aller voir le grand professeur qui a la PHP aujourd'hui. Si t'habites pas à Paris, si t'habites même pas en Europe, t'habites en Afrique, tu veux quand même aller voir le grand professeur, d'accord? Et donc demain en fait, tu peux imaginer que toute ta prise en charge en fait, parce que en fait la santé c'est une science de l'information principalement en fait, donc ça peut être fait de manière très largement à distance, sauf évidemment si j'ai une intervention physique à faire, où là évidemment je me déplace, mais peut-être pas à la PHP. Si j'habite très loin, je peux le faire à côté de chez moi, si j'ai mis un centre qui peut faire un geste technique pour faire une prise de sang par exemple, pour faire une biopsie ou que sais-je. Si j'ai une chimio, quelqu'un une infirmière peut me l'apporter à domicile. Donc en gros,
mais la valeur elle est sur l'analyse et la connaissance médicale à partir des datas d'une prise de sang par exemple.
En tout cas, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que il y a beaucoup en fait à gagner en qualité des soins et aussi en même si le terme est pas joli, en optimisation du temps médical et le temps patient aussi qui en fait le patient est un peu la dernière roue du carrosse, parce qu'en fait tout est centré sur l'hôpital, le médecin qui une chaîne de production qui est infernale, et le patient finalement il est un peu baladé entre
il subit le système, il n'est pas le centre,
ouais. Exactement. Et du coup donc il y a cette révolution à faire qui va être capitale, qui va faire en sorte que on sera en capacité, enfin le système à effectif constant, lit constant, tu parlais des nombres de lits. En fait, il y a de moins en moins de lits dans les hôpitaux. Pas parce qu'en fait, on veut diminuer la capacité des hôpitaux, mais parce qu'on a besoin de moins de lits, parce qu'il y a l'ambulatoire qui se développe, entre guillemets. Donc, le patient, si en fait, il se fait opérer, il part d'hôpital le jour même, il y a plein d'études qui montrent que il va mieux guérir. En fait, il va mieux se rétablir
chez lui.
Chez lui, parce qu'il préfère être chez lui. Il a son entourage. En plus, il va marcher. Donc en fait, son corps va se mettre en marche. Alors que si tu restes allongé, tu fais moins travailler ton corps. Et du coup, il y a tout ça. Ça va dans la même vague qui est de dire en fait, tu vas pouvoir faire des gestes techniques précis dans des hôpitaux qui sont spécialisés, enfin des lieux qui sont spécialisés pour faire ces interventions. Mais de plus en plus, la prise en charge de manière globale doit être prise à distance. Je donne un autre exemple. Les pathologies chroniques qui sont la grande pandémie du siècle. Voilà, on a deux fois plus de diabétiques aujourd'hui qu'en 2000. 2000, il n'y a pas si longtemps. Deux fois plus, d'accord. Le cancer peut devenir plus ou moins chronique parce qu'on guérit le cancer de plus en plus, mais du coup
le
sida devient chronique, on meurt plus du sida aujourd'hui. Voilà, donc en fait il y a plein de maladies qui deviennent chroniques, on accumule les maladies chroniques, et bien souvent les maladies chroniques donc comme le diabète, comme la surtension, etc., en fait pour les combattre, il faut combattre les habitudes du patient, les habitudes de vie du patient. Donc en fait si tu vas voir ton médecin et le médecin dit faites plus d'exercice, OK, mais une fois qu'il a dit ça, c'est pas gagné que toi tu changes plus, que tu fasses plus d'exercice, d'accord? Si au contraire, tu es accompagné par des applications dans tes gestes du quotidien qui vont te coacher, qui vont t'aider en fait à réaliser cet objectif qui est de faire plus d'exercice ou de changer d'alimentation, etc., c'est là que tu vas faire des vrais progrès. Donc en fait, tout ça pour dire que tu vois ton médecin 1% de ton temps, et c'est 99% de ton temps, en fait, qu'il faut.
Qui est important.
Voilà.
Exactement. Et du coup, l'IFEN aujourd'hui accompagne jusque-là le patient. C'est un objectif.
Alors, l'IFEN, en fait, on a commencé par, cet aspect, effectivement, comment j'échange les documents médicaux, d'accord, entre, l'hôpital, la ville, la médecine de ville, le patient, qui est un peu le cœur de la coordination médicale, d'accord. Donc l'échange des documents médicaux, c'est vraiment là, c'est l'activité de base des médecins, et c'est comme ça qu'ils échangent l'information sur les patients. Et on est en train d'évoluer entre guillemets en essayant de dire, ben en fait, l'IFEN développe une plateforme qui va permettre à toutes les applications, toutes les innovations en santé de se déployer auprès des hôpitaux. Donc c'est ça vraiment qu'on veut faire, c'est digitaliser l'hôpital, faire cette infrastructure digitale qui va permettre de déployer plein d'applications digitales, pas que du coup de l'échange de documents, pas que de la téléconsultation ou autre
chose.
Donc
c'est le socle et l'infrastructure. Exactement. Qui permet d'aller un cran plus haut. Alors justement, on a une question pour toi qui rebondit sur ce niveau d'ambition et de vision que tu es en train de présenter. Elle est posée par quelqu'un que tu connais bien, mais que je connais bien aussi. Je crois que tu dois déjà deviner qui c'est.
Vous avez un message.
Hello Franck, et merci beaucoup de me permettre de te poser cette question.
On voit ton sourire que tu reconnais.
Donc, je voulais savoir, comment est-ce que tu fais pour, avec l'ampleur de la vision que tu déploies sur l'IFEN et qui est présente depuis le début, de construire cette plateforme de digitalisation de la santé qui permette un système de soins beaucoup plus efficient grâce à la donnée, grâce à la mise en relation et en collaboration de tous les acteurs du système de soins, y compris l'innovation et les startups. Comment est-ce que tu construis le chemin pour y arriver ? C'est-à-dire que comment est-ce que tu arrives à penser des étapes qui soient à la fois suffisamment précises, pragmatiques et qui construisent de belles fondations, mais aussi qui permettent d'entraîner les équipes, tes partenaires, ton écosystème, et qui soient atteignables sans jamais perdre de vue l'objectif que tu te fixes et sans y renoncer en restant aligné. Donc en gros, comment est-ce que tu concilies le long terme et le court terme, parce que c'est ça qui est nécessaire pour créer le tempo. On n'y arrive pas que en visant le long terme. Merci beaucoup.
On rappelle qui posait la question.
C'est Marie Eklund, évidemment.
Alors Marie, en plus, je suis presque en conflit d'intérêts puisque c'est aussi mon associé, la fondatrice du fonds 2050. Donc on travaille beaucoup ensemble justement sur ces questions d'alignement du court terme et du long terme. Donc forcément, la question passionne les entrepreneurs parce qu'on croit toujours que les startups, ça va vite. La réalité, c'est qu'il y a des visions, enfin en tout cas quand on rencontre des gens comme toi, qui s'inscrivent dans le temps long.
Et donc des étapes et des marches.
Voilà, et donc dans le temps long, bah, effectivement, moi je connais Marie depuis longtemps.
Ouais.
Puisque elle avait investi au tout premier tour de Criteo, donc en 2005. Donc voilà, on se connaît depuis un certain temps. Mais effectivement, moi c'est ça qui m'intéressait dans ce projet-là autour de la santé, c'est qu'on se doute bien que digitaliser le secteur de la santé, ça va pas se faire en 3 jours, hein, même pas en 5 ans. Ni en 7 d'ailleurs.
Ce sera jamais fini.
Et voilà. Et donc c'est un long chemin. Et effectivement, je pense que la démarche entrepreneuriale elle est forcément fait d'étapes, en fait. Tu peux pas dire bon, ok, je vais tout changer du jour au lendemain, etc. Je suis le meilleur, etc. Je vais tout faire. D'autant plus que le secteur de la santé est d'une complexité inouïe, en fait, entre déjà tous les acteurs qui le composent.
On va y revenir.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Donc il faut choisir une bataille, en fait, en disant voilà, ok, je prends. Et moi j'aime beaucoup ça, en fait, dire ok, faut. Voilà, si tu veux, notamment quand t'es une start-up, tu démarres de rien, en fait. Donc nous, quand on a démarré, bah en fait, on connaissait. En plus, moi, j'avais pas la chance de connaître beaucoup de médecins ou de directeurs d'hôpitaux. Donc, tu démarres de rien, tu connais personne, t'as zéro client.
Déjà, faut comprendre.
Voilà. Et donc, faut essayer de se dire déjà, bah ok, comment je vais créer de la valeur. Et la meilleure façon de créer de la valeur, c'est, je pense, de surtout dans un secteur qui est extrêmement complexe à pénétrer, c'est de prendre un cas d'usage bien précis et se dire ok, celui-là je vais le faire le mieux que je peux, d'accord, je vais vraiment mettre toute mon énergie là-dessus. Alors faut pas se planter non plus, parce que voilà, si tu tapes
faut
à côté,
faut pas se tromper de bataille. Ouais.
Voilà, mais
ouais.
mais donc après tu peux essayer de pivoter, de assurer que tu sois la bonne bataille, mais tu prends une bataille et tu essaies de le faire super bien, et ça te permet finalement après de pénétrer le marché. Et après de faire une autre bataille et de faire comme ça par ricochet, entre guillemets, plutôt que d'essayer de tout attaquer d'un coup.
Et pour rebondir sur la question de Marie, la bataille d'après, c'est la marche qui est juste à côté. Des fois, on fait un grand écart. T'as listé toutes les batailles que tu souhaitais mener?
Non, alors en fait c'est toujours pareil, c'est une construction du quotidien, tu vois. En fait plus t'avances, plus c'est comme si dans le brouillard, tu vois. Plus t'avances, plus le brouillard recule aussi, quoi. Et du coup plus tu découvres un petit peu les opportunités, et à un moment là tu dis ok, là j'ai suffisamment avancé dans cette direction là, il est temps de, parce que je vois une autre destination qui est agréable, il est temps de faire un virage à droite ou à gauche.
Est-ce que tu dirais que du coup ta vision n'a pas changé depuis 2015, ou est-ce qu'elle a évolué, ou est-ce que c'est juste effectivement le chemin, tu vois, on parle du cap, ouais. Parfois
non, la vision n'a pas du tout changé, l'objectif non plus, hein, c'est vraiment de dire ok, comment on atteint la, comment on digitalise ce secteur là comment on fait en sorte d'être mieux soigné par le digital, donc ça n'a pas changé. Après effectivement c'est vraiment comment on y va et comment on trace la route. Ouais.
Tu l'as dit au démarrage, on part de rien, et en l'occurrence vous êtes parti sur un marché extrêmement complexe, beaucoup auraient renoncé. Qu'est-ce qui fait que, ne connaissant pas du tout ce sujet-là, tu te dis j'y vais?
Est-ce que tu as des médecins dans ta famille? Enfin, est-ce que la passion santé vient de quelque part en particulier?
Pas du tout. Pas du tout.
Ou c'est le fait que ce marché était pas du tout digitalisé, ou presque pas, et que du coup il y avait un boulevard.
En fait, c'était bon. Faut mettre les choses dans leur contexte. Mais donc moi, ça faisait 10 ans que j'avais monté Criteo, et donc qui avait été une aventure assez incroyable, hein, puisque on était effectivement une des premières startups à devenir licorne, et à l'époque. Ben, il n'y avait pas beaucoup, il y avait Press Minister qui était avant nous même, mais bon, voilà, on était un peu, enfin, je me souviens quand j'ai quitté ma boîte précédente pour monter Criteo, tout le monde m'a traité de fou, quoi. C'était vraiment pas du tout à la mode, quoi. Et donc voilà, 10 ans d'une aventure assez dingue où tu démarres à 3, et au bout de 10 ans on devait être un peu plus d'un millier coté au Nasdaq, plus d'un milliard de chiffre d'affaires, etc. Donc voilà, trajectoire assez incroyable. Moi, j'avais envie de me replonger sur une nouvelle aventure de zéro, quoi.
Et on peut pas repartir sur une petite ambition, du coup.
Je voulais surtout pas faire quelque chose dans le même secteur, quoi. Parce que c'était pas intéressant. Je voulais vraiment un challenge personnel. Donc, je voulais changer de secteur. je voulais quelque chose qui ait du sens. Parce que voilà, on n'a qu'une vie et quitte à passer 10 ans sur un sujet ou plus, il y a un moment donné, il faut dire, OK, à quoi ça sert, quoi? Quelle est la finalité de tout ça? C'est pas juste, voilà, d'avoir des clients et, Donc quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui puisse profondément améliorer le monde. Et donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire et puis assez rapidement j'étais très intrigué par le secteur de la santé parce que effectivement notamment avec cet œil extérieur en fait on comprend pas en fait pourquoi c'est difficile, pourquoi il y a si peu de digital et donc je voulais comprendre et donc j'ai creusé puis après voilà c'est
sur ce marché, beaucoup ont voulu digitaliser. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs, selon toi, que beaucoup se sont cassés les dents et que vous êtes encore là?
Je pense que il faut avoir beaucoup de pragmatisme. D'ailleurs, je pense que c'est pareil dans tous les secteurs, hein, toutes les startups. Mais faut avoir cet optimisme pragmatique. Dans le sens, voilà, faut quand même y croire, quoi. Faut dire, voilà, je vais quand même faire un truc. Mais faut pas non plus foncer droit dans le mur, quoi. Donc, voilà. Effectivement, je pense que c'est un secteur qui est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de gens, y compris des GAFA, enfin, voilà, plein de gens qui ont beaucoup de moyens qui se sont plantés. Alors après, ils continuent à investir. Mais oui, tu regardes, en fait, il y a beaucoup d'États qui ont investi beaucoup de milliards dans la santé pour un résultat pas à la hauteur des moyens, entre guillemets. Et je pense que, comme toujours, en fait, l'approche bottom-up, elle a plus de chances de réussir que l'approche top-down. Parce qu'en fait, quand t'as une approche top-down, où tu dis, voilà, moi, je suis responsable de tout un système de soins, bah, s'il faut que je mette d'accord tout le monde, si je vais finir par faire un compromis inextricable de voilà
fait qu'au final personne s'y
retrouve. Du coup tu retrouves
est-ce que tu obtiens quand même l'appui des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a une dimension pour transformer un secteur qui mélange le public, le privé, l'intérêt général et des intérêts privés? Est-ce que tu as des puissances ou tout simplement juste de l'inertie qui t'empêche d'avancer, ou est-ce que plutôt tu sens une envie de se transformer par le message que tu portes et les innovations?
Je pense que il n'existe pas un pays aujourd'hui post-Covid qui se dise pas il faut digitaliser la santé, quoi. Donc tout le monde est aligné sur l'objectif. C'est plutôt sur la méthode et les moyens qu'il peut y avoir des divergences. Notamment, en fait, il y a une question qui est fondamentale dans tous les secteurs, mais en particulier dans le secteur de la santé, qui est de dire quel est le rôle de l'État. Qu'est-ce qui appartient au monopole d'État et qu'est-ce qui appartient à la libre concurrence? Et cette frontière-là, eh ben, elle est pas claire, en fait. Elle est pas claire. Et en plus, elle est changeante, elle est mouvante, ce qui fait que ça n'aide pas forcément les entrepreneurs à se positionner, parce que forcément, quand tu as une concurrence potentiellement de l'État et qui du coup va non seulement imposer quelque chose, voire le faire gratuitement, c'est pas évident. Et du coup, voilà, ça fait partie en fait des difficultés de ce secteur-là, où typiquement, l'action de l'État va être très différente d'un État à l'autre. Mais potentiellement, si tu prends par exemple en Angleterre, la NHS, c'est en fait l'hôpital public, c'est 90% des soins qui est géré par l'État. Donc il y a l'État est opérateur de santé. Du système de santé.
Je reviens sur la question initiale, qui est de dire qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là où d'autres se sont plantés les dents. se sont plantés. Il y a l'éclatement du marché, notamment.
Alors, en fait, qu'est-ce qui fait que ce marché est compliqué? Il y a plein de choses. Oui. Effectivement, je comparais à la finance. À la finance, tu vas voir la City ou la Défense, t'as fait le tour des clients. La santé, faut aller voir tous les villages de France. toutes les villes, parce que voilà, les médecins sont partout sur le territoire. Donc il y a une structure de marché qui est inhérente au secteur, qui est extrêmement éclatée, avec du coup des toutes petites TPE. En fait, les médecins ils sont dans leur cabinet. Donc après il y a aussi des hôpitaux, c'est compliqué pour ça. C'est compliqué parce que on parlait de la régulation, mais la régulation est locale à chaque pays, hein, et voire l'organisation du système de soins est différent. Donc, il y a des, voilà, on parle du public et du privé. Selon les pays, c'est pas du tout pareil. Donc, il y a beaucoup de barrières qui sont structurelles, quoi, et qu'on va pas changer. Hein, on va pas
et à chaque fois, du coup, ça a une incidence sur votre offre ou le produit en tant que tel.
Ben, en tout cas, il faut arriver à décoder ça et il faut arriver à se dire, OK, indépendamment du produit, du business model, parce que le business model est toujours compliqué dans la santé, parce qu'en fait, le payeur n'est en général pas l'acheteur, pas le prescripteur, qui est en général pas l'utilisateur. Donc le payeur, ça peut être la sécu, l'acheteur, c'est le directeur de l'hôpital, l'utilisateur, c'est le médecin, et le patient, c'est celui qui en bénéficie. Voilà. Donc il y a toute une chaîne en fait qui peut être assez compliquée. Je rajoute les appels d'offres, parce que si c'est du public, il y a des appels d'offres. Voilà. Donc on comprend assez vite qu'en fait ce secteur-là, en fait, au-delà de l'idée, du produit, du concept, il y a tout un tas de choses autour en fait qui sont importantes et qu'il faut comprendre si on veut avoir une chance de bouger les choses.
Et donc dans le business model de l'eFund, qui paye alors et qui paye quoi? C'est les établissements?
Alors dans le produit initial qu'on a lancé qui consistait à faciliter l'échange des documents médicaux, là c'est les établissements qui payent parce que en fait ils font des économies. Alors on va rigoler, mais un hôpital pouvait envoyer jusqu'à ça dépend de la taille, mais 1 million de lettres par an, donc ça fait 1 million d'euros de timbres, hein, voilà, c'est si on digitalise 90% du flux, on fait des économies de timbres et du coup on peut payer la solution d'iPhone. Effectivement c'était assez simple.
Mais j'imagine qu'il existait aussi des systèmes, même sommaires, que ce soit un envoi par email ou des partages via des systèmes d'hébergement ou autre, non?
Alors c'est là où c'est pas facile parce que faut que ça rentre dans la régulation et donc typiquement
l'email, en termes de sécurité,
l'email,
c'est ça.
L'email standard n'est pas légal parce qu'en fait. Comme pour la banque, il faut que tu aies fait le KYC, alors KYP pour le patient. Ouais. Voilà, faut que tu saches en fait que t'envoies au bon patient, que il a vraiment été authentifié, ou au bon médecin. Et donc il y a tout un ensemble de critères réglementaires qui font que voilà, tu peux pas juste envoyer comme ça sur WhatsApp ton compte rendu médical.
D'utiliser d'abord les établissements qui payent.
Ouais. Et effectivement, donc là sur l'offre qu'on déploie depuis 18 mois sur la plateforme du coup de digital, en fait, on permet à toutes les applications de e-santé de pénétrer les hôpitaux de manière beaucoup plus facilement. Et donc là, c'est les applications qui payent. Donc on est vraiment sur une offre de marketplace du coup entre d'un côté des hôpitaux et de l'autre des applications. Et donc c'est les applications qui payent.
Et quelles sont ces applications?
Alors plein d'applications.
À titre d'exemple,
ouais, donc des applications de parcours patient, d'applications de télésuivi à distance sur le cancer par exemple, ou de suivi des plaies à distance, ou d'éducation thérapeutique, ou de préadmission en ligne, ou de où on t'aide à trouver parcours en aval de l'hôpital, on va t'aider à trouver une sage-femme, par exemple, sortie d'hôpital pour la femme qui a accouché. Ou en fait, il y a tout un univers d'applications qui sont en fait en train d'émerger. Il y a eu 900 millions d'euros investis dans la e-santé en France l'année dernière.
Ah, donc c'est énorme. Oui, c'est énorme.
Donc globalement, je lance une start-up dans la santé. J'ai une proposition de valeur assez claire pour un des personnages que tu as évoqué, je vais chez l'IFEN, ça me fait gagner du temps de pénétration de marché.
C'est ça. Et juste pour comprendre un peu le problème, si tu as une application que tu veux, par exemple, être utilisée dans le soin à l'hôpital, ça pourrait être, tu vois, de la décision, un peu que sais-je, voilà. T'as besoin d'un ensemble d'éléments minimal. Enfin, par exemple, le minimal, c'est t'as besoin de la liste des patients. Voilà. Si t'as pas la liste des patients, en fait, le médecin va devoir recréer des fiches patients en faisant des erreurs. Il le fera pas. Voilà, il a pas le temps. On le sait déjà. Donc en fait, il faut avoir ces interconnexions de données. Et si tu veux faire ça, sachant le parc informatique des hôpitaux qui est ce qu'il est, on va dire.
Qui est vétuste, on va dire.
Et qui est surtout on-premise, en fait. Donc, chaque hôpital a une infrastructure différente, etc. Mais en fait, tu vas avoir entre 6 mois à 2 ans de gestion de projet par hôpital. Donc, tu veux faire 100 hôpitaux, t'as 100 fois
autant de temps.
Un an. Et donc, ouais.
Donc ça, c'est vraiment une montagne.
Voilà, et on le transforme en quelques clics, quoi.
On a une question de notre partenaire Madinès avec sa journaliste Anne Taffin. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Bonjour. L'AFL ambitionne de toucher 1500 hôpitaux et d'avoir un catalogue de 200 solutions d'e-santé d'ici à 2025. Souhaitez-vous adresser certaines verticales en particulier ? Le fait d'adresser autant de problématiques ne vous fait-il pas courir un risque d'éparpillement ?
1500 hôpitaux, c'est beaucoup, mais bon, c'est pas non plus. Donc il y a 3000 hôpitaux en France. On a un peu plus de 600 hôpitaux clients aujourd'hui, mais il y a pas que la France en fait. Il y a d'autres pays. Donc on commence à regarder ce qu'on peut faire.
Bon, on y reviendra sur l'international. Voilà, voilà. Ouais.
Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'en fait, la e-santé, on en parle un petit peu, mais ne fait que démarrer. En fait, la e-santé, c'est pas juste la téléconsultation, genre mon médecin. C'est toute la prise en charge. Donc demain, en fait, tu peux imaginer que chaque pathologie, tu t'es fait opérer du genou, de la hanche pour tel truc, tu vas avoir un suivi dédié à ça, qui va t'aider à voilà.
Donc c'est un parcours spécifique.
Voilà, préparer l'opération, le suivi post-opératoire, etc. Toutes les pathologies chroniques seront prises à distance, etc. Et donc en fait, c'est toute la prise en charge en fait du patient qui va être aidée par des applications. Et donc voilà, c'est un univers qui s'ouvre à nous.
Et le ratio de chiffre d'affaires entre la première offre que vous adressez directement vous aux hôpitaux et la marketplace, c'est vrai, ça représente quoi? Et aujourd'hui, et puis a priori demain à terme, ça.
Ouais, bien sûr.
L'équilibre va peut-être.
Aujourd'hui, on est très du coup pondéré sur la première offre parce que c'est celle qui est historique. Et à terme, on pense qu'on sera autour de 50-50. Quoi.
À terme.
Ouais, ouais. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de croissance sur la
première offre.
La première, ouais. Qui est vraiment du document de workflow management. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est voilà, comment je gère en fait toute la formation médicale.
Une autre question que je me posais, je voulais te la poser tout à l'heure, j'ai oublié, mais on parle beaucoup de la techno, on parle beaucoup du produit, mais tu l'as dit, un marché, ça se pénètre. Vous êtes sur un marché qui est éclaté, il faut aller dans tous les villages. Vous y allez vous personnellement avec une équipe de sales qui est au taquet. Vous avez d'autres moyens pour développer le marché?
Alors, on voyageait énormément avant le Covid. Maintenant, on voyage moins parce que il est devenu acceptable socialement de faire des meetings de prospection en Zoom.
Ouais.
Donc ça, on a gagné beaucoup en productivité. Maintenant, on perd en lien.
En lien humain,
c'est clair. Ouais. Donc en fait, on essaie de trouver le bon équilibre entre aller voir nos clients en présentiel et en distanciel.
Aujourd'hui, toutes les équipes sont à Paris.
Alors non, on a en fait historiquement en fait on était déjà pas mal distribué. On avait 20% de gens qui n'étaient pas à Paris avant le Covid. Là on est à 30% maintenant.
D'accord.
Mais le gros est à Paris, ouais.
Mais on parle de prospects qui sont déjà ultra sollicités. Comment on fait sa place?
Je pense pour moi il y a une clé dans ce secteur-là, c'est la qualité et l'extension du produit. C'est-à-dire qu'en gros si t'as la chance d'avoir l'écoute d'un médecin pendant le temps nécessaire, t'auras pas deux chances, quoi. Donc t'as une chance, et donc faut que ça marche parfaitement.
D'ailleurs, un de tes cofondateurs est le Chief Product Officer.
Exactement.
Ouais, qui montre l'importance, effectivement,
du
produit, donc de l'expérience, en fait, ouais.
T'as évoqué très rapidement tout à l'heure le sujet de l'international. On a une question à notre partenaire Oracle avec Christophe Négrier que je te propose d'écouter.
Vous avez un message.
Bonjour Franck, vous connaissez une magnifique croissance. Vous avez récemment annoncé vouloir embaucher plus de 200 talents dans les 18 mois, vouloir étendre votre présence internationale. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre plan d'expansion, notamment sur les pays d'implantation et le chiffre d'affaires ciblé?
Merci pour la question. Effectivement, donc on a démarré en France, qui est notre pays d'origine. On regarde les pays européens, sachant que chaque pays a ses spécificités. Donc là, on regarde deux pays en particulier, que sont l'Allemagne et l'Angleterre. Alors on va pas tous les faire en même temps, les pays, hein, si on prend l'exemple de d'autres sociétés du secteur. Voilà, on
faut step by step, voilà, encore une fois.
Step by step, voilà.
Et mais à titre un peu d'illustration, quelles sont les, on imagine qu'il y a des grandes différences, ne serait-ce que culturelles, mais sûrement également réglementaires, etc. Et est-ce qu'il y a des différences un peu frappantes qui nous projettent dans la difficulté de regarder l'Allemagne ou l'Angleterre en particulier?
Alors l'Angleterre, ce qui est intéressant, c'est que ils sont plutôt en avance sur le digital en santé. Il y a beaucoup plus d'applications de e-santé en Angleterre qu'en France. Je crois que c'est 3 fois plus. Donc c'est hyper intéressant pour ça. L'Allemagne, c'est tout l'inverse en fait. L'Allemagne, ils sont hyper en retard. Pourquoi? En particulier parce que ils ont très peur de tout ce qui est stockage, traitement de données médicales de manière centralisée. Ils sont très frileux sur le respect du RGPD, et par exemple il y a des états, donc des Länder en Allemagne, parce que là encore c'est régionalisé,
c'est décentralisé,
il y a des Länder en Allemagne où il est interdit de stocker les données de santé dans le cloud. Donc en fait, si tu veux faire, par exemple, le simple fait de faire la téléconsultation, c'est interdit parce qu'en fait, par définition, tu peux pas. Faudrait la faire depuis l'hôpital. Donc, ça.
et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part à la conquête d'un Länder pour s'en servir d'exemple pour les autres ensuite?
Ça veut dire qu'en fait, c'est un pays qui est hyper intéressant parce que ils sont certes en retard, mais notamment grâce ou à cause du Covid, mais ils ont une volonté assez forte en fait de digitaliser le secteur. Enfin, c'est le gouvernement, et du coup ils investissent beaucoup, et donc en fait il faut être là au bon moment quand ça se passe, et donc il y a une opportunité qui est assez intéressante en Allemagne parce que ça se passe dans les années qui viennent.
C'est un marché que je connais peu, mais j'ai vu plein de films, et notamment des films américains, et on aurait pu penser que aux États-Unis il y a un boulevard parce que tout est déjà privatisé. Est-ce que c'est trop complexe, trop gros, ou des concurrents déjà existants sur le marché avec une promesse relativement similaire?
Alors pour moi c'est une question de logique en fait, c'est-à-dire que avant d'aller aux États-Unis, faut d'abord prouver que tu arrives à aller dans les pays limitrophes, quoi. C'est ce qu'on avait fait avec Criteo. Tu vas pas te. C'est comme quand t'apprends à faire du ski, tu fais pas la piste noire d'abord, quoi. Tu fais la piste bleue, après tu fais la verte, après la bleue et après la rouge. Voilà.
D'accord. Donc c'est l'ordre chronologique, mais parce que il y a certains entrepreneurs qui disent, non, on va directement aux États-Unis parce que c'est là où est le gros du marché.
Oui. Alors je pense que si tu fais une innovation médicale, c'est différent parce que là le marché il est global par nature. En fait, tu fais une biotech par exemple, donc tu vas te faire tourner ces cliniques aux États-Unis à la FDA, et puis t'auras un marquage chez eux, et la FDA c'est différent de si tu fais du digital health, dans le sens où chaque pays est très différent, quoi.
D'accord.
Il y a un sujet aussi, Franck, qu'on aime beaucoup aborder, c'est le sujet de la marque. D'ailleurs, je crois que tu me l'as dit en off tout à l'heure, nous, c'était pas mon sujet, moi, de trouver le bon nom. Au début, vous appeliez Honestica, je crois, tout comme Criteo s'appelait Trustopia. Et du coup, je serais curieux de savoir comment c'est né, et à quel moment, finalement, vous avez décidé, à défaut de pivoter le produit, de pivoter la marque.
Oui, moi, je suis pas très bon pour trouver des noms. Je trouve toujours des noms un peu ésotériques, un peu bizarres. Honestica, je l'avais marre que tout le monde me demande, mais pourquoi Honestica? Donc on a changé de nom assez vite en fait.
Il y avait une signification?
Je trouvais ça pas mal comme voilà, il y a aussi non pas en fait moi ce que j'aime
l'honnêteté,
bien c'est
quoi. Oui.
Ce que j'aime bien c'est
et l'authenticité.
C'est tu en fait tu veux un nom, alors je vais donner un peu mes critères, mais tu veux un nom qui est court, évidemment, dont le nom de domaine est dispo, qui a vaguement un rapport avec la choucroute, mais pas trop non plus, parce que tu veux pas
être enfermé,
enfermé dans un truc où il y a écrit, je sais pas quoi.
Et où la vision pourra pas se développer.
Ouais. Donc parce que tu sais que tu vas forcément pivoter un petit peu, tu vas peut-être
évoluer. Ouais.
Donc tu veux pas être piégé par un nom qui est trop fermé.
Et donc ça, c'est les conseils de quelqu'un qui nous dit « Je suis nul pour trouver un nom », mais c'est vrai que les critères à la base sont bons.
Mais est-ce qu'il y a une méthodologie, du coup, vous avez réfléchi entre vous, ou fait appel à des conseils extérieurs ?
Non, c'était entre nous. C'est toujours entre nous que ça se passe, ce genre de choses.
Et l'IFAN aussi, du coup.
Ouais, exactement. Exactement.
Et à quel moment vous dites, pour le coup, non, Honestica, faut qu'on arrête.
Non, mais déjà, t'as un H aspiré, donc en fait, c'est l'enfer.
C'était compliqué. Oui, c'est pas très court, en plus.
Ouais.
Sur aujourd'hui, la présence de la marque Lifen, elle arrive à quel moment? Parce que du coup, vous adressez in fine aussi aux patients. Est-ce qu'ils voient que c'est Lifen qui est derrière ou est-ce que c'est de la marque blanche ou grise?
Alors nous, on est clairement B2B, hein, dans le sens où on cherche pas forcément à exister en tant que marque auprès des patients. Nos clients, ce sont les professionnels de santé, les médecins, les hôpitaux. Et après, il s'avère que des fois, voilà, on expose la marque auprès du patient, mais c'est pas systématique et c'est pas forcément une volonté, quoi. On fait ce que veut notre client, dans le sens où nous, quand on vend la plateforme Lifen, vraiment l'infrastructure qui va permettre à l'hôpital de digitaliser, on veut pas que l'hôpital, on veut que l'hôpital soit maître de son destin. En fait, on veut lui redonner la souveraineté, et du coup, c'est lui qui choisit comment et sous quelle marque il veut parler, communiquer avec les patients.
On a parlé du premier nom de Lifen. Je te propose de passer aux autres premières fois. Premier salaire.
Alors premier salaire, je sais pas quand est-ce qu'il était parce qu'en fait je me payais pas et
comme beaucoup d'entrepreneurs.
Mon premier salaire zéro. Ouais.
Voilà zéro et j'ai dû me payer et du coup c'est toujours le cas aujourd'hui. Je crois pour toucher, pour avoir l'assurance maladie, voilà, où en fait fallait que j'ai un salaire quelque part. Donc en fait, voilà, je suis payé un SMIC.
On aime bien rappeler que au départ, beaucoup d'entrepreneurs ne se payent pas et la question c'est de savoir à quel moment, on décide que son travail mérite salaire. Qui est toujours un
Ah, évidemment,
un
vrai questionnement. C'est pas toujours la même problématique quand tu lances ta première entreprise ou quand t'as déjà réalisé ce qu'on appelle un exit et que t'as un peu d'argent de côté, que tu peux effectivement ne pas faire payer ton entreprise pour pouvoir éventuellement, en revanche, recruter des talents. Parce que ce qui est différent de se payer soi-même et de constituer la dream team de départ.
Premier apprentissage.
Premier apprentissage, c'est que c'est pas parce que t'as fait une boîte que tu veux en faire deux. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu sors d'une première expérience réussie, notamment quand la boîte est à une certaine taille, en fait, t'as un peu oublié en fait les premiers moments. Je pense que c'est je suis pas spécialiste parce que je suis pas une femme, mais les femmes qui sont enceintes, tu sais, et qui accouchent, en fait, elles oublient vite en fait la douleur.
Je pense que
c'est pareil en fait. T'as un prisme qui est déformant quand t'as réussi, qui est pas bon en fait. Et donc premier apprentissage, il faut se remettre,
faut se remettre
faut
dans
désapprendre un petit peu ce que tu crois que t'as appris, qui était vraiment spécifique à une entreprise quoi.
Ouais. Moi, j'avais une question sur la première fois qui était la première rencontre avec tes fondateurs. Parce que sortant de Criteo, t'avais des cofondateurs, qui sont très connus et qui ont bien réussi. Et comment est-ce que tu recommences à zéro pour re-rencontrer des fondateurs?
Alors, en tout cas, moi, je voulais pas faire une entreprise solo. Parce que je pense que c'est vraiment bien d'avoir des cofondateurs. Et du coup, je cherchais un petit peu, c'est pas évident.
Il y a une question de personne, une question de timing.
Exactement. Et puis, ça s'est fait un peu, via le réseau et les rencontres. Pour l'anecdote, en fait, c'est un copain que j'avais rencontré dans la Silicon Valley, qui me dit un jour, voilà, en fait, tu devrais rencontrer ces deux jeunes là. Ils ont monté une boîte dans la santé, ils sont super. Donc je les rencontre et puis effectivement, là, c'est le coup de cœur et donc on décide de faire la boîte ensemble. Et du coup, ce copain en question, 6 mois plus tard, on recrute pour être le CTO de Lifen.
Ah ouais, donc c'est bonne équipe. Et alors juste, je fais une petite entorse à la règle des premières fois, mais c'est vrai qu'on a mentionné Philippe Douste-Blazy, ancien ministre. Et donc, alors du coup, quelle est la première rencontre avec Philippe Douste-Blazy et comment est-ce qu'on embarque un ancien ministre, enfin qui est par ailleurs médecin?
Ouais. Écoute, ça se fait de manière assez simple finalement. Je connaissais quelqu'un qui avait travaillé chez Criteo, qui travaillait avec Philippe et qui du coup avec qui j'ai parlé du projet et qui naturellement m'a dit écoute On peut prendre un café et puis du coup moi évidemment je suis un peu impressionné quoi, j'ai pitché un peu ce qu'on veut faire, puis c'était le tout début quoi, donc forcément je connaissais rien
et pas puis encore de preuves
non
de...
et puis ouais. Alors voilà, et donc et puis en fait au début tu rencontres plein de gens, en fait tu vois, tu passes ton temps à pitcher ton projet à gauche à droite pour avoir du retour. Et puis là, étonnamment, à la fin, enfin, en général, ça se finit tout le temps comme ça, les gens disent, ah ben, bravo, continuez, formidable, quoi, voilà, ou, bon. Et puis, il me dit, ben, comment je peux m'aider, comment je peux m'appliquer, je dis, ben, comment tu peux, je n'avais pas bien compris, en fait, parce que je m'attendais pas du tout, ça, de sa part, quoi. Du coup, j'étais hyper flatté, et puis voilà, donc c'est comme ça que...
Et du coup, lui, aujourd'hui, il est en charge de quoi?
En fait, il est pas opérationnel dans le sens où il travaille pas.
Je me doute, ouais.
Voilà, il a plein d'activités. Il nous ouvre des portes, voilà. Il nous aide sur plein de d'aspects plus stratégiques qu'opérationnels, quoi.
Et c'est essentiel aussi. Voilà. Faut marcher sur deux jambes. Premier renoncement, il y en a eu?
Alors il y en a plein des renoncements, parce qu'en fait, surtout dans ce secteur-là où les choses sont quand même difficiles, donc tu. Premier renoncement. Là aussi, bah, peut-être qu'au début, on avait cette forme de naïveté, qu'on pensait qu'on allait, pouvoir s'intégrer dans tous les logiciels du secteur assez facilement, et en fait non. En fait non. Du coup, on a renoncé à ça, et on a tellement renoncé que on a bâti le produit autour du fait qu'on allait complètement hacker l'intégration avec tous les logiciels via une combinaison d'imprimantes virtuelles et de l'IA qui vient lire les documents médicaux en fait comme toi et moi, et qui réinterprète le texte qu'il y a dedans, parce que justement on n'a pas fait ces intégrations qui nous permettraient d'avoir les données.
Parce que les premiers gros acteurs du marché qui étaient partis sur la digitalisation, eux, fermaient les portes.
Alors, en fait c'est ça, c'est un marché qui est extrêmement éclaté déjà. Il y a plein de logiciels différents. Faut comprendre que dans un hôpital, il y a des centaines de logiciels, en fait. Alors, il y a certes le gros ERP, entre guillemets, là, le dossier patient, mais par exemple, si tu te fais opérer des yeux par un laser, le laser, il vient avec un logiciel. Donc, en fait, des trucs comme ça, il y en a des centaines. Et donc, les comptes rendus médicaux, les données médicales sont dans ces logiciels-là, dans des centaines de logiciels différents. Et donc, la question, c'est comment tu les récupères, sachant que, en fait, en général, ils sont tellement fermés que en fait le
ils n'ont pas été pensés pour communiquer entre eux. Ouais.
En fait, le logiciel, il vient avec un laptop en fait qui est dans le bloc opératoire, et le seul truc que tu peux faire, c'est renvoyer le laptop au fabricant ou imprimer le compte rendu. Voilà, c'est tout quoi. Donc en fait, et en plus il y a un parc informatique qui est assez statique, dans le sens où l'hôpital qui a investi pour le laser, la machine qui fait le laser, et elle va le garder pendant 30 ans. Donc en fait, tu peux pas considérer que ces logiciels-là vont être changeables, quoi.
Écoute, ce qui nous passionnerait aujourd'hui, c'est, vu que tu as cette vision et ce niveau d'ambition, c'est de nous plonger dans le monde d'après, après ce petit jingle. I have a dream. I have a dream. Donc, I have a dream, c'est aussi souvent l'ambition des entrepreneurs, hein, c'est de, tu disais, de vouloir améliorer le monde, changer le monde, trouver du sens. Et quand on y réfléchit sous l'angle Lifun, comment est-ce que tu te projettes, et qu'est-ce sera le monde de la santé idéale? Est-ce que c'est une sorte de dystopie ou d'anticipation de science-fiction aussi? Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien y penser de sous cet angle-là. Je sais pas ce que tu en penses, Thomas, mais tu vois, de se dire, plus tard, quel serait le monde de la santé idéale?
Alors, idéal, je sais pas, mais en tout cas, je pense c'est un monde où le patient est beaucoup plus au cœur de sa santé, beaucoup plus pris en charge par du coup tout un ensemble de dispositifs, quoi, avec évidemment des soignants, mais pas que, et du coup beaucoup plus à même, en fait, d'être mieux soigné, d'avoir plus de prévention qu'aujourd'hui, où vraiment on est un peu au balbutiement de tout ça.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les outils, le gros sujet, ça va être de rendre acteur le patient de sa propre santé.
Oui, en fait, de le rendre acteur quand il le souhaite, et de l'accompagner quand il le souhaite aussi. Parce qu'en fait, il y a aussi ça.
On peut pas forcer les gens.
Ouais. Non, mais il y a aussi ça. Ouais. C'est qu'en fait, les gens aiment bien aussi être pris par la main. Donc faut que quelqu'un te prenne par la main. Aujourd'hui, personne te prend par la main. Tu vois,
est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir, et j'imagine que vous l'avez, mais entre la vision d'une médecine thérapeutique peut-être plus efficace, mais aussi la vision d'une médecine plutôt préventive, Et à quel moment les données, l'information, le numérique et donc l'IFEN peut aussi contribuer à ça, c'est-à-dire finalement pas seulement mieux soigner, mais aussi mieux prévenir.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, voilà, faut mieux pas tomber malade. C'est un peu comme si tu prends l'automobile. Il y a 20 ans, 30 ans, t'avais des voyants dans ta voiture, des voyants rouges, tu vas chez le garagiste. Bon, ok. Maintenant, elle tombe plus jamais en panne ta voiture, en fait, parce que quand le voyant s'allume, il est orange déjà, il est pas rouge, et tu vas chez le garage avant que ça devienne trop tard, quoi.
C'est le même enjeu.
En fait, c'est ce qu'on devrait faire pour nous-mêmes, quoi.
Tu m'amènes à une autre question, parce que tu parlais d'une utopie avec un idéal, et à l'inverse, bah, les technos, c'est bien ce qu'on en fera. Si on se projetait plutôt dans un monde dystopique ou un monde où la data de la santé partirait en vrille, j'imagine qu'il faut aussi se préparer à ça quand on touche à des données sensibles. Qu'est-ce qui ferait que ça part mal?
Bon, oui. Alors, avant, je vais donner un avant-propos avant de parler de ce sujet-là, mais globalement, je trouve que sur la balance, si tu veux, risque et reward, les gens sont très concentrés sur le risque et pas assez sur le reward.
Ouais.
Et que tu vois la façon, enfin, en gros, le potentiel de développement de la donnée en santé qui est considérable.
Oui, pour, le côté bénéfice-risque dont on a beaucoup parlé.
Exactement. Ouais. Et donc, les gens sont très focalisés sur le risque et un peu moins sur le bénéfice.
Donc, on peut prendre des risques à condition que les bénéfices soient supérieurs.
Bien sûr, voilà. Mais en fait, c'est comme tout. Et d'ailleurs, en fait, dans la médecine, c'est présent dans tout. En fait, à chaque fois qu'un médecin te prescrit un médicament, il y a une balance bénéfice-risque parce que ce médicament peut te nuire autant qu'il peut.
Si tu lis bien tout ce qui est écrit sur la notice, tu peux mourir demain.
Ouais, voilà. Voilà. Donc heureusement, ça marche en général mieux que ce que. Mais je veux dire, il y a un curseur en fait. Et quoi que tu fasses, en fait, il faut être conscient des deux. Donc effectivement, il y a rien qui est sans risque, mais il y a aussi
c'est un sujet de nuance.
Exactement.
Mais on aime bien ce mot-là.
Voilà. Donc c'est important d'apporter la nuance. Et donc après, dans les risques, oui, bah il y a des risques évidents. Donc après, tu pourrais, il y a des risques de divulgation de données personnelles, par exemple. Bon, là, t'as peut-être pas envie de savoir que les gens sachent que tu souffres de telle maladie, etc. Donc les risques d'attaque. Ils sont présents.
Mais je m'interroge à haute voix, mais je me suis toujours demandé qu'est-ce que pouvaient bien faire des hackers de ces données personnelles. Quel intérêt de savoir que j'ai un cancer de la prostate, par exemple.
J'ai un élément de réponse, ouais. mais ça, c'est Franck qui est le spécialiste. Mais je pense que déjà, ils peuvent surtout paralyser le système de santé. Comme ils peuvent bloquer des administrations. Alors du coup, ça, là, pour le
ça,
coup,
j'entends bien.
Il y a un risque géopolitique, tout simplement.
Oui,
après,
c'est ça.
Tu fais une pression sur la population.
Les ransomware sont assez courants.
Bah, d'ailleurs, il y en a eu, oui.
Donc effectivement, ça bloque les hôpitaux et ils cryptent tout.
Ça, j'entends. Je parlais plutôt de la donnée personnelle et quel risque finalement de.
Bah, comme toute donnée personnelle, en fait, ça peut porter préjudice à la personne. Voilà, surtout si c'est une personne qualifiée, quoi, qui est connue, etc. Et après, ça peut porter des. Tu peux imaginer que sur, tu veux obtenir un prêt pour acheter une maison, tu veux, sur ta carrière, sur tous tes projets, en fait.
C'est vrai que si on réfléchit un peu à la politique fiction, on se rappelle que François Mitterrand avait caché son cancer. Pardon, tu peux imaginer que il y ait des personnalités exposées fortement qui pourraient être. Dont les secrets pourraient être révélés au grand jour, et ça peut effectivement probablement jouer sur des questions presque de la démocratie et des institutions.
Écoute, ça aurait pu être une transition parfaite pour la rubrique Moi Président, mais on a une dernière question d'un de nos partenaires avec Philippe Mabi de la Tribune, qui évoque justement ce sujet de la santé en France. Donc on va faire un constat et puis évidemment on va se projeter.
Vous avez un message.
Bonjour Franck, j'aimerais savoir combien vous évaluez le retard de la numérisation de la santé en France par rapport à des pays comparables qui seraient plus en avance, en tout cas que nous à l'étranger. Est-ce que on est bien? Est-ce qu'on est très très mal? Et quels sont les obstacles, d'après vous, les freins qui expliquent ce retard de développement? Merci beaucoup.
Poser la question autrement, comment on va, docteur?
Je pense qu'on va pas si mal, en fait. On va pas si mal si on se compare à nos voisins européens. On parlait déjà de l'Allemagne tout à l'heure, où je pense que clairement on est bien plus en avance qu'eux. Après, on va être plus en retard que des pays. On cite souvent les pays nordiques, donc l'Estonie évidemment, mais la Finlande ou même les Pays-Bas, qui ont des infrastructures en fait. De communication, de partage de données médicales qui sont bien plus développées qu'en France. Donc après voilà, ce qui compte pour moi, c'est pas forcément l'état, c'est plutôt la trajectoire en fait. Est-ce qu'on a une trajectoire qui est la bonne? Et je pense que moi j'ai beaucoup d'espoir dans le sens où je pense que les étoiles sont ou vont s'aligner, dans le sens où on en parlait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de startups, beaucoup d'investissements dans la e-santé en France, et donc ça va créer un bouillonnement et beaucoup d'innovation, beaucoup de choses. Le timing qui fait que bah en fait on a besoin que ces innovations là rentrent sur le marché, parce que en fait sinon le système de soins pourra pas gérer en fait convenablement toute la croissance des malades. Et puis je pense que on a les payeurs, donc la sécu en France, qui de plus en plus ont conscience que les hôpitaux aussi, que l'hôpital de demain il est numérique, et que la santé numérique c'est pas juste un gadget quoi. C'est ça peut soigner.
Et en plus, c'est source de gains pour la société.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et du coup, on est déjà dans la politique, donc c'est vrai qu'on peut, on peut s'avancer sur moi, président, parce que je boule de quelques questions que m'inspirent tes réflexions.
Je précise que nous tournons cet épisode dans l'entre-deux-tours et qu'on le diffusera juste normalement dans la foulée.
Française, français.
Moi, Franck Leway, je propose.
Alors, déjà, je voudrais surtout pas être président. Hein. En tout cas, président de la France. Je préférerais l'idée de créer un nouveau pays plutôt qu'être président de la France.
Ça, c'est l'esprit entrepreneur. C'est disrupter la politique en créant un nouveau pays.
Mais effectivement, je trouve que il y a pas assez d'innovation dans la gouvernance en fait. Les États n'innovent pas hein. En fait la démocratie. Qu'est-ce qu'on a innové dans la gouvernance des États depuis de nombreuses années en fait? Pas grand-chose quoi. Donc ça c'est un autre sujet.
Non mais c'est le sujet effectivement.
Donc après moi si j'étais président de la France, je pense qu'il y a une mesure mais malheureusement qui ne sera jamais prise mais que j'essaierai de prendre. Parce qu'elle est à la fois extrêmement simple, elle coûte rien et elle créerait beaucoup de richesses. C'est le fait d'abolir les appels d'offres. En fait, l'appel d'offres, le principe de l'appel d'offres, ça a été, mis en place pour combattre la corruption.
Qui a été plutôt une bonne chose dans l'ambition.
Donc, en fait, bon problème, mauvaise solution, d'accord. Donc combat de la corruption, très bien.
Les appels d'offres dans les marchés publics.
Voilà, exactement, dans les marchés publics, voilà. Mauvaise solution, pourquoi? Parce qu'en fait, tu tues l'innovation. Tu tues complètement l'innovation quand tu fais des appels d'offres. Pourquoi? Parce que, en gros, l'innovation, en fait, bien souvent, on le voit bien dans les startups, elle vient de celui qui propose un produit qui va être scalable. Du coup, c'est le même produit hein, pour tout le monde, à différents clients. Donc, à partir du moment où c'est le client qui fait l'aspect du produit, parce que c'est lui qui fait l'appel d'offres, du coup, t'as un truc qui est non scalable. Ça prend une énergie de dingue pour la puissance publique, pour la puissance publique. Et pour
constituer le cahier des charges,
voilà,
et ça,
voilà, voilà, pour répondre, etc. Les méthodes de choix sont pas les bonnes, parce que tu vas jamais choisir tester le produit, est-ce que c'est le mieux, celui qui marche mieux, qui a le plus d'usage? Non, parce que en fait tu fais ça en chambre entre guillemets, donc sur des documents, tu vas en chambre. N'importe quel produit startup qui marche bien serait pas choisi parce qu'en fait il est moins bien que la grosse boîte qui fait ça, etc.
Donc, et puis beaucoup de jeunes boîtes sont pas staffées pour prendre ce temps de réponse.
Voilà, voilà. Et donc ça c'est moi je vois en fait concrètement hein, depuis 7 ans sur plein d'aspects et ça tue et l'administration elle-même en fait qui moi j'ai vu des exemples où les décideurs donc disaient en fait, si je veux faire un appel d'offres, c'est trop compliqué de faire un appel d'offres, donc en fait je fais pas. Voilà.
Mais il est vrai, non, mais il y a quelque chose de effectivement central dont on se rend compte avec France Digital aussi. Hein. C'est vrai que le problème d'accès des startups des solutions d'innovation est soumis à un code des marchés publics qui est quand même ultra complexe, dont on comprend effectivement les raisons. Tu les as dites, c'est pour effectivement essayer de créer une sorte de notion d'équité entre les différentes possibilités, notamment dans la gestion de l'argent public. Mais c'est impossible d'apporter de l'innovation puisque les cahiers des charges sont le reflet plutôt du passé, c'est-à-dire des besoins identifiés historiques, etc. Alors les solutions nouvelles, par définition, elles ne sont pas connues des établissements qui créent les appels d'offres. Donc du coup, on peut pas... Donc peut-être qu'au lieu de tuer les appels d'offres, il faudrait probablement trouver une autre voie, peut-être parallèle ou autre, sur certains marchés pour laisser une marge de manœuvre aux décideurs publics de pouvoir adopter des solutions innovantes qui n'étaient pas prévues.
Eh ben, ce qui n'était pas prévu, et on va se retester sur ce qu'on faisait au tout début, Olivier, c'est qu'on va pas cutter cet échange en deux, avec une partie une et une partie deux, mais on va prolonger nos échanges avec Franck dans une partie peut-être plus personnelle.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Écoute, on va rester quand même assez pro, mais on va commencer avec un proche à toi qui a une question pour toi. Je te propose de l'écouter.
Vous avez un message.
Hello Franck, après le succès de Criteo, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une autre startup et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui tous les jours pour développer l'iPhone?
Alors, je reconnais la voix de Romain Nicoli, qui est du coup mon ancien acolyte chez Criteo avec JB.
Et lui-même à nouveau entrepreneur avec Pigment et Leonard Crespo.
Je rappelle juste Criteo, c'était Jean-Baptiste Rudel, Franck Leway et Romain Nicoli.
Voilà. En fait, c'est simple, hein, c'est que en fait, si tu fais rien, tu t'emmerdes, quoi. Donc, t'as quand même envie de faire un truc, quoi. Et donc, un truc qui te passionne, qui peut améliorer les choses, quoi. Donc, faut choisir un combat et puis après, laisser le mener aussi bien qu'on peut.
Mais c'est vrai que comme on est dans cette rubrique un peu plus personnelle de ton podcast, on pourrait se dire, en étant assez franc, on pourrait se dire il a gagné de l'argent, hein, parce que vous avez gagné de l'argent. C'est l'introduction en bourse de Criteo, ça a quand même été des valorisations en milliards de dollars au Nasdaq à New York, et tu pourrais vouloir faire autre chose. Pourquoi pas un défi sportif ou un engagement purement humanitaire ou t'occuper de uniquement de ta famille ou voyager, enfin etc. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on essaye de comprendre, hein, qui est de l'ordre du ressort psychologique qui fait que...
Qui était retourné à faire des appels d'offres.
Non, mais c'est une bonne question. Je pense que quand t'as... En fait, tu l'as connu, je pense, chez Price Minister, quand t'as connu une aventure comme celle de Criteo, tu ne rêves que d'une chose, c'était de recréer quelque chose qui peut ressembler à ça. Et pour preuve, en fait, l'immense majorité des... Tu prends le top 100 des employés de Criteo, quand ils sont partis, pour ceux qui sont partis, c'était pour créer une boîte, en fait. C'était pas pour faire autre chose, faire du sport ou même être salarié d'une autre entreprise. C'est pour créer une boîte.
C'est l'adrénaline.
Parce qu'en fait, ouais. tu te dis, mais en fait, j'ai connu quelque chose qui m'a marqué professionnellement et humainement tellement que je ne peux pas imaginer faire autre chose, quoi. En fait, c'est comme ça que je le vois, je pense.
Justement, qu'est-ce que t'as appris sur toi pendant cette première décennie? Parce que tu l'as dit, ça m'a aussi changé personnellement.
Je pense que une leçon, c'est que monter une boîte, c'est du temps long et qu'il faut optimiser sur le temps long, notamment sur les relations humaines. Parce que tu sais que c'est comme un mariage, quoi. En fait,
il y aura des hauts et des bas.
Voilà, exactement. Il y a des hauts et des bas, il y a du stress. Donc il faut gérer l'instant, mais il faut savoir aussi prendre du recul et dire en fait demain,
pour préserver,
dans un mois et dans un an, on sera encore ensemble, quoi.
Justement, dans cette réflexion sur les relations, et tout à l'heure, Olivier évoquait tes associés, qu'est-ce qui fait, quand on a une réussite collective comme vous l'avez eue, qu'on décide ou pas, justement, de repartir avec la même équipe ou au contraire de mener chacun son nouveau projet. Voilà, trois cofondateurs, trois directions nouvelles. Est-ce que c'est une question déjà qui se pose? Est-ce qu'on a besoin d'air frais et peut-être aussi de se prouver des choses à soi-même en se disant que la réussite, on peut aussi la trouver seule et pas forcément uniquement avec cette équipe-là?
Alors, dans mon cas, je pense qu'il y a plein de cas particuliers, mais dans mon cas, en fait, ça s'est fait assez naturellement parce qu'on était, coté au Nasdaq. On n'a pas vendu la boîte, en fait. Donc, en fait, il n'y a pas d'événement déclenchant pour que, on va pas se dire, on va tous partir au même jour, quoi. Ce serait la catastrophe pour le cours de bourse, quoi. donc naturellement, en fait, on s'est plutôt dit, voilà, si un jour les uns veulent partir, on va partir en même.
L'introduction en bourse, c'était 2013?
2013, ouais.
Et moi, toi, tu es parti quand?
Je suis parti en 2015. J'étais le premier, en fait, des fondateurs à partir. Chacun a son voyage personnel, quoi.
Et du coup, quand chacun a relancé ses projets, vous appelez pour confronter un peu les visions sur les projets des uns des autres. Tu leur as pitché comme à n'importe qui, et puis ils t'ont peut-être dit des choses en te connaissant que d'autres n'ont pas pu te dire. Et vice versa.
JB, il est dans le sud de la France, donc je vois un peu moins, mais Romain, enfin même encore aujourd'hui, en fait, hein, on se voit très souvent et on se challenge mutuellement, ouais. Et c'est bien d'avoir finalement quelqu'un avec qui tu peux parler librement et qui a aussi une expérience forte, quoi. Donc
qui a ce regard entrepreneurial qu'ont pas forcément tous tes amis proches, et qui en plus a ce regard d'associé, où j'imagine qu'on connaît autant les forces que les failles.
Mmh. Et justement, moi, c'est une des choses que je recherche, c'est dans l'équipe, en fait. Ça dépasse les associés d'ailleurs, hein, c'est vraiment être conscient, en fait, des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'aime pas faire. Et en général, en fait, quand on n'aime pas les faire, on sait pas les faire. Et en fait, bien souvent, en fait, on se pose des questions, tu vois, au niveau RH, en disant, ah tiens, telle personne, on aimerait qu'elle fasse ça, mais en fait, elle le fait pas. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, en fait, on change pas les gens, en fait. Les gens, ils sont comme ils sont. Ils ont des forces et des faiblesses ou des qualités. Et faut juste l'admettre et dire, OK, bah, toi, t'es super fort là-dedans, bah, fais ça. Et pas autre chose, surtout pas. Par contre, on va prendre quelqu'un d'autre qui fera ce en quoi t'es pas fort, et comme ça, tout le monde sera content.
Est-ce que toi, tu arrives à nous dire ce en quoi tu n'es pas fort?
Oh là, moi, il y a tellement de choses dans lesquelles je suis pas fort.
Oui, mais bon, c'est vrai que c'est l'exercice. Alors, c'est pas la fausse humilité, hein, mais c'est vrai que je pense, j'ai souvent constaté que les bons entrepreneurs, ils savent justement s'adjoindre les complémentaires, hein, c'est ce que tu viens de dire. Donc, du coup, quand tu parles de toi de manière un peu plus introspective, si on peut se le permettre à ce micro, c'est qu'est-ce que tu dirais que tu avais besoin de compléter?
Moi, je pense que je suis pas fort dans tout ce qui est administratif, dans tout ce qui est... RH, légal, finance, c'est pas forcément ce qui me passionne, et c'est pas là où je pense que je suis pas fort pour manager des gens juniors. En fait, j'ai un style de management où je fais confiance par défaut et je délègue beaucoup. Et donc, ça se passe en général mal avec des gens juniors.
Parce qu'ils ont besoin d'être davantage encadrés. Ouais.
Voilà, ils sont complètement perdus.
D'accord. Donc, c'est des pistes qui te permettent effectivement d'aller chercher des talents qui peuvent compléter ça.
On poursuit dans le très personnel avec une question de quelqu'un que tu devrais reconnaître a priori. On écoute.
Vous avez un message.
Franck, quand tu as cofondé Criteo, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu as trois petits-enfants. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'entreprendre comme père de famille versus célibataire?
C'était la voix de qui?
Ah, c'était la voix de ma femme. Je pense que c'est beaucoup plus simple quand tu es célibataire. Parce que quand tu... quand tu crées une boîte, bah t'es à fond quoi. Et donc en fait tu t'as qu'un seul truc dans ta vie, c'est ça. Et
t'as pas d'autres responsabilités.
Clair. Et donc c'est facile. C'est facile. Combien de fois est-ce que j'ai quitté le bureau en me disant bon ben ça je le verrai ce soir. Tu fais ta journée en fait au bureau, puis après tu commences à bosser le soir, tu fais tes mails ça. Là c'est plus possible en fait. Enfin au début j'avais un peu ce réflexe là, bah je le ferai ce soir, mais en fait non, tu le fais pas parce qu'en fait t'as ta famille quoi. Je suis très content.
Est-ce qu'à l'opposé il y a des avantages à être entrepreneur et père de famille en même temps? Est-ce que ça change ton approche au monde, aux autres?
Bah en fait je pense que t'as une vie qui est plus équilibrée quoi, donc en fait t'es peut-être moins la tête dans le guidon parce que tu peux aussi te perdre à être à fond tu gardes un peu de santé mentale parce que t'as un équilibre familial qui est en tout cas que j'essaye de préserver.
Mais est-ce que moi je me posais la question, enfin je le prolonge parce que je voudrais fouiller un petit peu, c'est notre pratique psychologique, je me demandais si le fait d'avoir des enfants ça peut pas être aussi d'une certaine manière, parce que tu as parlé de recherche de sens, d'améliorer le monde, est-ce que c'est pas aussi d'une certaine façon une source d'inspiration? Est-ce que quand tu penses au système de santé qu'on peut laisser justement à nos enfants, est-ce que ça peut faire partie de tes motivations de, en regardant tes propres enfants, de dire que le truc va dériver et va, non, ça va être de pire sûr. En pire, les questions des maladies chroniques ou du réchauffement climatique, ouais. De la qualité de l'air, enfin en gros on va être soumis à de plus en plus de pathologies, c'est quand même le monde qu'on laisse à nos enfants.
Oui, bah c'est sûr, et effectivement, mais ça c'est un point qui est très fort, c'est quand t'as des enfants, je pense que ça te rend encore beaucoup plus conscient du fait que voilà, ils vont vivre dans un monde qu'on aura aidé à façonner, et donc on a quand même envie de façonner un monde meilleur quoi, et il y a beaucoup de raisons d'espérer comme de craindre les conséquences de nos actes.
Ça m'amène à deux questions, et évidemment je vais commencer par la première, c'est très logique, mais je reviens sur ce avant je monte Criteo en étant célibataire, aujourd'hui je monte Lifun en étant père de famille. Ça veut dire que tu réorganises ton temps, parce que j'imagine c'est pas au détriment de la boîte, sinon vous n'en seriez pas non plus là où vous en êtes aujourd'hui. Et t'as parlé d'un équilibre à trouver. Donc c'est quoi l'équilibre qui fait que tu ne délaisses ni ton projet entrepreneurial qui compte pour toi. Enfin, quand on est entrepreneur, évidemment ça compte. Et à l'inverse, une nouvelle chose à pas délaisser, à savoir la qualité affective qu'on peut avoir avec sa famille.
Je pense que c'est reprendre le contrôle sur son agenda, ce qui est extrêmement compliqué avec tous les outils qu'on utilise aujourd'hui. On devient tous esclaves de notre agenda parce que voilà, chacun.
Oui, c'est le paradoxe. C'est censé nous aider, puis finalement on en finit esclave.
Voilà. Et du coup, je pense que c'est pour moi c'est la chose que j'essaye de travailler, et c'est sans cesse, parce qu'en fait c'est un travail de tous les jours de reprendre le contrôle sur son temps, mais c'est de dire ok, ben voilà, en fait c'est moi qui dois maîtriser mon temps, et donc ben il y a des temps où je suis avec ma famille, des temps où je suis au travail, et au travail voilà comment je vais essayer d'optimiser mon temps pour que je sois efficace.
Et alors justement, pour optimiser le temps au travail, ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses auxquelles on renonce, des rencontres ou des opportunités d'échange qu'on décide de ne pas prendre parce que le temps n'est pas extensible?
Je pense que c'est vraiment une question d'organisation. Je vais donner un exemple. Tu prends une boîte qui grandit, et t'as ton comex, tu vois, t'as ton directeur technique, directeur des ventes, et donc chacun a du coup une organisation qui augmente, et du coup chacun est de plus en plus occupé, naturellement. Et si tu veux prendre une décision qui implique tous ces gens-là, parce qu'elle est importante, elle est impactante, donc en plus tu vas pas la prendre en 5 minutes, mais en fait si tu veux caler un meeting pour décider de ce sujet-là, en fait naturellement en fait tu vas te dire bah en fait le seul créneau disponible en fait il est dans 2 semaines quoi, d'accord, parce que en fait chacun naturellement
agendas,
voilà.
Ouais.
Donc en fait si t'as besoin de te voir 4 fois pour prendre la décision, en fait tu prends une décision en 2 mois, et donc en fait t'es en train de tuer ta boîte, parce qu'en fait avant tu prends la décision en 2 jours et maintenant tu la prends en 4 mois, et donc c'est juste une question de comment t'arrives à organiser le temps des uns et des autres pour
qu'il y ait ces moments de synchronicité.
Voilà, exactement. Et donc en fait, soit tu dis bah ok, je reprends contrôle de du temps et donc on se dégage des plages par exemple de temps en commun etc régulières et
qu'on décide de prendre ou pas s'il y a besoin voilà. ou pas ouais.
Mais du coup enfin naturellement en fait les choses se dégradent. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas deviennent incontrôlables en fait si tu reprends pas la main et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles en fait les startups ont une chance en fait et sont beaucoup plus agiles que les grosses boîtes, c'est que en fait t'as moins ces questions de contraintes en fait et donc quand tu grandis il faut absolument avoir ça en tête et dire ok en fait naturellement les choses vont avoir tendance à se dégrader, il faut que je consciemment je me batte pour que je reste agile ou que je reste aux commandes de ma boîte.
Tu parlais de la gestion de ton temps aujourd'hui, le temps de Frank Loewy chez Lifun, ça consiste en quoi? C'est rythmé, c'est séquencé, le lundi matin c'est ça, le mercredi après-midi c'est ça?
Alors oui, bon, on a un peu on essaie d'organiser un petit peu. Ouais, le lundi, c'est très très tourné sur l'interne, comme souvent d'ailleurs.
C'est le début de la semaine.
Voilà. et le mardi après-midi, justement, c'est le temps comex qu'on se bloque. Et j'essaye en fait comme ça de me réserver des plages horaires sur des thématiques données. Donc j'ai
Et qu'est-ce que c'est qu'un comex du coup? C'est une réunion physique, c'est une réunion distancielle, ça dure combien de temps? Et est-ce que vous prenez des décisions ou est-ce que vous partagez de l'information? Comment se passe la chain of command?
Alors c'est forcément toujours un peu mix présentiel distanciel, on a une équipe qui est assez distribuée, mon CTO il habite en Allemagne, mon directeur commercial il habite à Lyon, voilà, donc même mon cofondateur maintenant, CPO, CEO, il est parti du côté de Bordeaux, voilà. Donc en gros, on essaye d'être en présentiel le plus possible, mais bon, ça fait partie du jeu d'être un peu en distanciel. Après, en fait, ce qu'on est, on fait pas des choses extraordinaires. En gros, on a un peu une revue d'actualité de tous les projets en cours, et puis après, on essaye de prendre du temps sur les thématiques particulières. Donc, s'il y a un sujet, voilà, on a du temps dédié et on peut discuter du sujet.
Et j'en viens à ma seconde question. Donc là, je passe un peu du coq à l'âne, mais on parlait de tes enfants et c'est vrai qu'avec Olivier, on s'interroge beaucoup sur l'héritage qu'on souhaite laisser. Donc il y a l'héritage pratico-pratique et ça imite. Ça nous intéresse pas, à moins que tu aies une réflexion particulière là-dessus, mais plutôt en ce qui concerne l'héritage philosophique, ça nous permet déjà nous autour de la table de réfléchir à nos propres vies et peut-être aussi pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu souhaites laisser comme message?
Pour t'aider à réfléchir à la question, on pourrait se demander est-ce que tu as envie, par exemple, que tes enfants deviennent des entrepreneurs? Ce qui est pas au départ une philosophie, mais un choix de vie, ou en tout cas, si tu as envie de leur passer un message, ça peut être à l'ensemble ensuite des jeunes générations. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les armer pour la vie?
Entrepreneur, peut-être. En tout cas, j'ai envie qu'ils trouvent leur voie et qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font et qu'ils arrivent à en vivre. Voilà. Donc après, ça peut être l'entrepreneuriat, mais ça pourrait être
tellement de choses, bien sûr.
J'ai pas de prise particulière sur l'entrepreneuriat. En tout cas, enfin, j'adore ça, mais je pense que j'ai pas forcément vocation à essayer de leur imposer mes choix à moi. Enfin, ça reste très personnel. Donc,
Et si vous voulez censer, je prolonge là-dessus, mais si je voulais élargir un peu, mais si demain un de tes enfants te dit je me lance dans la création d'entreprise, tu lui donnes un deux conseils? Démerde-toi, tu verras bien, t'apprendras en marchant.
Je lui donnerai des conseils s'il me pose des questions. En tout cas, j'essaierai de l'aider.
Est-ce que tu investirais dans son entreprise?
J'imagine un petit peu quand même, oui.
C'est pas mal, hein, je pense que ça peut être une réflexion plutôt que de laisser un héritage, de dire moi j'investirai chez toi, ce qui est différent.
Mais en fait, la question c'est est-ce qu'ils voudront que j'investisse dans leur entreprise ou est-ce qu'ils diront non, mais attends, mais surtout pas, t'es has-been.
Est-ce que comme il y a les fils d'eux des grands comédiens, il peut y avoir les fils d'eux entrepreneurs? Tu penses que ça peut jouer aussi, ça?
Oui, j'imagine.
Ça dépend. Si on parle après, effectivement, il y a des boîtes qui se pensent et ça fonctionne bien, comme du capitalisme familial. Donc, est-ce que, par exemple, tu peux imaginer avoir envie, ce qui n'est pas l'esprit d'une start-up ou d'une scale-up, mais est-ce que tu peux avoir envie de léguer tu vois, l'e-fun.
Non, pas du tout.
Ouais, en général, c'est pas le cas, mais tu vois, dans beaucoup d'entreprises plus traditionnelles, et ça fonctionne parfois très bien, y compris d'ailleurs en Allemagne, le capitalisme familial, bah, ça crée une sorte de permanence. Alors certains pensent que c'est injuste, parce que du coup, l'héritage est pas justifié au départ, peut-être par le talent, mais ça crée économiquement de la valeur, parce que de la pérennité s'installe entre les générations.
Ben, je pense que c'est pas tout le modèle des startups avec du financement par des VC.
Oui, parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont besoin de sortir à un moment donné. Ouais,
Et du coup, plus largement, indépendamment de la création d'entreprise, qu'est-ce que t'as envie qu'ils gardent de toi? Parce qu'on partira tous un jour.
Alors là, c'est compliqué comme question.
On partira peut-être pas hein, avec une santé améliorée. On va peut-être être immortel, hein, c'est l'homme augmenté.
Ouais, je sais pas si je nous le souhaite.
Bah, je sais pas, c'est une forme d'optimisme et le fait de croire que on peut aller loin en faisant un pas devant l'autre.
Très bien. Tu sais que j'aime bien les citations, Thomas. Il y en a une de Alain que je pense avoir déjà dit prononcé à ce micro, mais qui est de dire que le pessimisme est de nature et l'optimisme est de volonté. C'est une bonne transmission pour les enfants.
Je sais pas si tu l'avais déjà partagé, mais je l'aime toujours autant.
S'inspirer. Respirer.
Tu l'auras compris, Franck, Olivier s'inspire beaucoup de lecture. Quelles sont tes inspirations perso?
De manière générale ou
En fait, souvent, ce qu'on constate, et tu l'as dit, un entrepreneur, c'est à fond. Alors après, quand la famille arrive, il y a au moins un temps familial. Est-ce qu'il y a d'autres temps qui font que toi, tu arrives à trouver ton équilibre? Parce que tu es un homme orchestre, hein, même s'il y a des choses que tu aimes moins bien faire et tu as l'honnêteté de le partager, il y a quand même beaucoup de choses que sur lesquelles tu as du talent et tu as appris, tu as l'expérience, etc. Mais malgré tout, hein, je pense qu'à un moment donné, tu peux aussi saturer l'inspiration, c'est cette idée de respirer d'oxygène, mais d'oxygène intellectuel également. Ou autre, hein, qui peut être d'autres moments qui sont pas ceux de l'entreprise.
Bah, en tout cas, j'aime bien avoir mes moments seuls, un peu dans ma bulle. Et donc, en général, quelques activités que je peux faire dans ces moments-là, soit c'est courir, en fait. J'aime bien aller courir. Donc, quand je travaille en remote, j'aime bien, dans la pause déjeuner, aller courir une heure. Et je fais aussi du piano. Donc c'est aussi une activité dans laquelle, en fait, j'aime bien les activités où ton cerveau est à 100% sur un truc, tu vois.
Ouais, et du coup, t'es pas distrait par les tentations extérieures, parce que tu dois avoir... C'est vrai ce que permet le sport ou la musique, en effet. Et est-ce que tu arrives... Est-ce qu'il y a des moments, en fait, où tu fais des choses plus avec la sphère de tes amis, en dehors? Est-ce que tu arrives à avoir une sphère, tu vois, entreprise, famille, et une autre sphère encore? Ou est-ce que, finalement, l'ensemble se mélange?
Je fais assez peu de networking, en fait. J'en faisais forcément beaucoup plus avant, même si j'en faisais pas non plus énormément. Mais avec la famille là, c'est un peu plus compliqué, parce que je préfère passer
tu
le temps.
Tu préfères garder ce temps-là plus privé.
Ouais. Ouais.
Je reviens sur le piano. Parce qu'on est on est passé très vite dessus, mais à l'image d'un sport, un instrument, ça amène beaucoup de choses. Je serais curieux de savoir ce que ça t'amène plus spécifiquement à toi au quotidien, dans tes réflexions, dans ton temps de calme et peut-être d'inspiration aussi pour la boîte.
Alors moi, je suis pianiste depuis très longtemps, pas professionnel là du tout, hein, évidemment, mais
On n'a qu'une vie, on peut pas tout mener.
Mais ce qui est, je trouve, enfin moi, ce que j'adore avec cette pratique-là, c'est que évidemment, tu peux jouer quelque chose qui est beau, où tu mets de l'émotion, tu mets tout ce que tu as dedans, et tu as aussi cette quête de l'excellence, dans le sens où quand tu joues un morceau qui est relativement technique et difficile. Surtout si t'as pas la chance de pouvoir t'entraîner tous les jours, tu vas forcément le massacrer un petit peu quand même. et du coup, il y a c'est jamais. En fait, tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours travailler plus pour faire mieux. Et quand tu vois ce que font les professionnels et que tu mesures à quel point le fossé est énorme entre toi et eux, ça aide aussi à avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, en fait, pour ceux qui en font leur métier.
Toi, tu as fait des études scientifiques.
Ouais, ouais.
Ingénieur, c'est ça?
Ingénieur, oui.
Et du coup, si tu avais pas été en... Parce qu'il y a souvent des scientifiques qui sont effectivement des musiciens. On voit pas mal de... Alors, on fait peut-être le parallèle entre l'esprit logique et la musique, etc. Et la construction. Et toi, si tu avais pas été entrepreneur, ça t'aurait... Est-ce que ça peut être un fantasme d'être effectivement un musicien professionnel, par exemple? Est-ce qu'il y a une autre carrière ou carrément autre chose, peut-être?
Alors, la question s'est posée, en fait, hein, quand j'ai... Parce que je faisais aussi beaucoup de violoncelle... et j'aurais pu faire le concours pour entrer à Paris
au conservatoire.
Ouais. C'était soit prépa, soit violoncelle, quoi.
Ah oui.
Bon, j'ai pris la prépa. J'aimais trop les maths et l'informatique. Enfin, c'était vraiment ma première passion. Donc en fait, j'ai jamais eu ce doute-là.
D'accord.
Et
pas de regret.
Non.
Je reviens sur cette réflexion qu'il faut peut-être des fois savoir un peu massacrer les grandes œuvres pour s'améliorer. Tu vois un parallèle avec la vie de l'entrepreneur dans cette idée que si tu veux être parfait dès le départ, tu l'es pas et
oui, alors, oui peut-être pas. C'est ça. C'est qu'effectivement, je crois que c'est Reid Hoffman qui disait si t'as pas honte du produit quand tu le sors, c'est que tu le sors trop tard
ou que t'es pas honnête.
C'est une bonne phrase, ça, hein, parce que c'est vrai qu'on apprend souvent cette fameuse règle des 20-80. Il faut sortir son produit à un moment donné, parce qu'effectivement, plus tu attends, plus tu cherches la perfection.
Oui, moins, en fait, tu es proche du public. En fait, voilà, ouais. Donc effectivement, et une boîte, c'est peut-être que c'est une bonne métaphore, effectivement, parce que t'as toujours plein de problèmes partout. En fait, t'as des problèmes humains, t'as des problèmes d'orga, t'as des problèmes de technique ou de bugs, etc. Ou ça va pas assez vite. D'une certaine façon, c'est très insatisfaisant, en fait. Et en fait, la seule boîte idéale, c'est la boîte qui n'existe pas, avec une seule personne, une page blanche, tu vois.
Toutes les boîtes. On dit feuille blanche.
Voilà. et ça qui est magique au début quand tu crées ta boîte, c'est que tu n'as pas de problème. les problèmes ne vont faire que s'accumuler dans le temps. Mais donc oui, en fait, il y a cette, d'un côté, une frustration permanente, mais de l'autre, faut voir le verre du bon côté aussi, c'est que finalement tu vas toujours avoir des problèmes de plus en plus, mais en fait tu résous aussi des problèmes et je pense qu'en fait tu vas on m'a souvent posé la question, tu vois, c'est quoi la clé pour réussir une boîte, etc. Et je pense que il y a pas cette magique, mais en tout cas une des bonnes pratiques, c'est de dire, en fait, faut juste prendre tous les problèmes qui viennent, les mettre sur la table, et puis...
Puis
les coltiner jusqu'à ce qu'ils disparaissent, quoi. Voilà. Mais c'est con à dire, mais c'est tellement difficile à faire. Parce que les problèmes, t'as pas envie de les voir. Les gens t'en parlent pas, parce qu'ils ont pas envie de t'en parler. Donc, en fait, tu les vois même pas. Donc, le simple fait de dire, OK, voilà, il est là, il est identifié sur la table, et on le corrige.
Et comment tu crées, justement, les conditions pour que ces problèmes remontent et qu'ils remontent plus vite?
Ouais. C'est une très, très bonne question, et c'est ce que j'essaie de faire systématiquement, mais c'est d'avoir la parole la plus libérée possible, dans la boîte. Et donc, c'est vraiment une question de culture. Culture est aussi une question de...
Il y a beaucoup de gens qui le disent, peu qu'ils l'assument vraiment jusqu'au bout.
Oui.
Oui.
Mais c'est pas qu'une question de culture, c'est aussi une question de contexte. Je donne un exemple très précis. Tu fais un one-to-one avec quelqu'un dans la journée, tu lui dis tout va bien, ouais, tout va bien, ouais, okay, bon. Tu vas voir la même personne le soir au bar, tu dis tout va bien, ah non, il y a rien qui va, c'est l'enfer, voilà. C'est la même personne, c'est juste qu'en fait, là, t'es au bar, t'as une pinte dans la main et ta parole est beaucoup plus libérée parce que tu te sens pas jugé de la même manière que t'es jugé quand t'es en one-to-one en face de l'autre, tu vois.
Donc, on sous-estime l'importance du management de la pinte.
En tout cas, du contexte.
Du contexte.
On peut pas favoriser juste la prise d'alcool.
C'est vrai.
Et est-ce que dans la question un peu perso, puisque c'est aussi la thématique de ce volet de ton podcast, Franck, le sujet du recrutement, c'est un sujet important parce que du coup, c'est aussi très souvent on le dit, la capacité pour toi, enfin donc pour quelqu'un qui est chef d'entreprise, de choisir des personnes qui sont peut-être meilleures que toi ou d'essayer d'aller les chercher pour porter ton projet plus loin. Est-ce que tu as une approche par rapport à ça? Parce que on sait que la matière humaine, le capital humain est essentiel dans l'univers numérique où c'est seulement ça finalement, seulement des personnes qui produisent des services.
Ouais, ça c'est très compliqué, hein, comme je pense qu'une façon de répondre à la question, c'est de la manière suivante. C'est quand ça se passe pas bien avec quelqu'un, c'est quasiment jamais pour des questions de compétences. C'est pour des questions de culture, en fait, ou de fit humain, ou de comportement. Et donc, en fait, pour moi, la chose la plus importante à valider dans l'entretien, c'est justement ce fit-là. Parce que, alors, certes, on a besoin de compétences.
Mais ça, c'est plus facile à mesurer.
C'est plus facile à mesurer et ça peut s'apprendre. Et en fait, quand toi-même, tu es entrepreneur et que tu montes une boîte, tu vas dans l'inconnu. Donc, en fait, tu sais pas où tu vas, quoi. Donc, tu sais pas les compétences que tu auras besoin demain. Et donc, je pense que là, pour moi, la partie fit, je sais pas comment le dire autrement, mais comportement, ouais, comportemental, c'est hyper important.
Quand tu évoques ça, t'as en tête des moments où ça s'est mal passé pour des raisons spécifiques de comportement?
Oui, à chaque fois, j'ai pas un cas à citer, mais en général, c'est ça, en fait. C'est que chacun, en fait, chacun a son prisme, tu vois, regarde la vie avec son prisme, et quand les prismes sont pas les mêmes, c'est compliqué, enfin, faut essayer de se mettre à la place de l'autre, dire, en fait, non, mais tu penses que j'attends ça de toi, mais en fait, j'attends ça de toi, tu vois, on n'est pas aligné sur, il y a plein de non-dits, en fait, dans les relations humaines, et plus tu pars de prismes différents, plus t'as un chemin important à faire pour rejoindre l'autre. Et souvent, t'as pas le temps de le faire, ou en fait le chemin il est impossible. Et donc tu réalises que t'as juste deux personnes qui sont pas compatibles. Et voilà, c'est comme ça, quoi.
Est-ce qu'il y a une manière, selon toi, de justement faire casser ces non-dits au sein de la boîte?
Ben, ça, c'est là encore, c'est extrêmement dur, en fait. Hein. Je pense que une façon de le faire, c'est d'expliciter la culture, c'est-à-dire voilà comment on est, voilà comment on n'est pas, voilà qui on est, et assumer en fait le fait que voilà comment on se comporte chez nous, quoi.
Y a beaucoup de boîtes qui parlent de leurs valeurs et peu qui parlent de justement de la des actes très concrets ou de la manière d'être au quotidien qui est parfois souvent plus concrète que de grandes valeurs qui sont abstraites ou derrière lesquelles il y a des mots, chacun met bien ce qu'il veut.
Oui, bah c'est tout la difficulté de l'exercice, c'est que ça peut devenir vite bullshit rapidement. Donc après, justement, nous, en fait, on a fait l'exercice il y a pas très longtemps parce que justement d'essayer de cristalliser les valeurs. Parce que pour moi, en fait, c'est vraiment pas quelque chose que tu décrètes ou que tu définisses, quelque chose que tu cristallises, dans le sens où voilà, c'est tu constates que c'est comme ça et c'est pas que toi. Enfin, tu t'imprimes une partie des valeurs, mais pas que, quoi. Et typiquement la façon dont, enfin, je décris l'iPhone est assez différente de Criteo, typiquement, dans la manière d'être, dans la culture, dans la personnalité de l'entreprise. Donc clairement, ça vient pas.
Tu saurais résumer ces deux personnalités en quelques mots?
En fait, je peux te dire, en fait, chez Criteo, là, c'était même pas une valeur, c'était un mantra. C'était le mantra dans la R&D, c'était no fear. Tu vois, c'était vraiment profond. C'est-à-dire qu'en gros, t'avais vraiment cette mentalité de, il y a rien qui va nous arrêter, il y a rien qui est trop compliqué. Faut prendre des risques en permanence, alors risque maîtrisé, mais voilà. Et c'est quelque chose qui était, et en fait, on a fait des choses, qui était assez innovante parce que justement on avait vraiment ça qui était hyper ancré chez Leafun. On a je pense que ce qui représente le plus qui on est, c'est embrace complexity. c'est pas pareil, mais c'est de dire, en fait, on est dans un secteur.
Il va falloir quand même innover, mais l'approche est effectivement pas la même.
On est dans un secteur qui est d'une complexité inouïe. Et si t'as pas envie de ça, faut pas venir chez nous. Tu vois, c'est parce que voilà, tu vas t'en coltiner pas mal, quoi.
C'est un bon résumé. Il a le sens de la formule parce que c'est vrai que ça fait deux phrases qui illustrent bien une vraie différence de culture.
On parlait tout à l'heure de ta page blanche. Moi, j'ai dit feuille blanche, mais maintenant c'est carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Alors j'espère que tu l'as préparé, j'espère que tu étais au courant, mais c'est le moment, ça porte très bien son nom, hein, cette rubrique, où tu as le micro face à toi, 3 minutes devant toi. Généralement, on n'interrompt pas trop, mais on pourra quand même rebondir dessus pour évoquer le sujet de ton choix.
Je vais pas faire dans l'exotisme, je vais parler d'entrepreneuriat, juste pour dire que on parlait un petit peu de nos sociétés et de la, enfin, si j'étais président, qu'est-ce que je ferais, etc. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une vraie force et qu'il faut qu'on incite le plus en plus les gens à entreprendre, parce que c'est comme ça qu'on va améliorer la société en particulier, pas que ça, mais quand on entreprend, en fait, on cherche à créer de la valeur, on est libre, on est indépendant, on est maître de son destin, alors plus ou moins, mais on est quand même plutôt libre. Et du coup, moi, j'incite énormément les gens à entreprendre. Alors, il y a beaucoup de gens qui aimeraient entreprendre, mais qui le font jamais. Et je pense que ça, c'est un sujet sur lequel on peut tarder 5 minutes. Pour moi, quand on demande aux gens qui veulent entreprendre pourquoi ils le font pas, en général, ils disent, j'ai pas l'idée. Bon, ok.
Il y a aussi ceux qui te parlent d'une idée pendant une décennie, mais qui n'y vont pas.
Oui. Mais en tout cas, pour moi, le fait d'entreprendre, faut surtout pas attendre d'avoir l'idée, en fait, pour entreprendre. Il faut juste se dire, en fait, je prends un problème. Et en fait, les problèmes, il suffit de regarder autour de soi, il y a que ça, des problèmes, d'accord. Donc, t'as peut-être pas l'idée, mais il y a plein de problèmes. Donc, prends un problème. Et commence ton chemin. Voilà. Tu commences à essayer de comprendre en fait pourquoi ce problème existe et comment on pourrait le résoudre et est-ce qu'il y a un moyen de d'améliorer cette problématique là. En fait, si tu fais ça, et je pense que tu peux faire une très belle boîte. Et si tu prends par exemple plein d'exemples de super boîtes, de super licornes, de décacornes, etc. Ils ont jamais innové sur l'idée, mais en fait le problème, c'est un problème. Si tu prends un problème fondamental de l'homme et que t'améliores un tout petit peu la solution, tu fais une belle boîte. Donc, tu prends le problème, je sais pas, problème du stockage des données. Les disques durs, ça existe. Bon, en fait, Dropbox, ils ont fait le disque dur 2.0 portable. Voilà. Le stockage de données, c'est un problème fondamental qu'on a tous, voilà, ils ont innové un peu. Uber, c'est le problème du transport. Ben, j'ai pas innové sur le problème. Le problème existe. J'ai juste fait une app. On se comprend. Mais j'ai juste fait une app qui permet de commander un taxi avec une app. En gros, c'est ça, Uber.
Il y a aussi ceux qui pensent, oui, mais il y a déjà quelqu'un qui répond en partie à ce problème et qui du coup s'arrête à ça. Alors, sur les exemples que tu as donnés...
Je crois que ça rejoint la question des excuses. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, les excuses, c'est un peu comme l'angoisse de la page blanche. Quand on parle de carte blanche, de feuille blanche. Bah, c'est effectivement la difficulté de réellement se lancer.
Si tu prends un problème... En fait, soit c'est un problème qui a été résolu. Auquel cas, le problème n'existe plus. Et donc, t'en prends un autre. En fait, c'est pas les problèmes qui manquent. Donc, pour moi, c'est juste identifier un problème qui est digne que tu passes les 10 prochaines années, quoi. C'est ça. C'est parce que tu vas y passer un bout de temps et donc faut prendre un sujet qui va t'intéresser suffisamment longtemps.
Il y a 10 ans, avec d'autres micros, j'avais eu Olivier en tant qu'invité et je lui ai demandé quelles étaient les superbes ou pas idées de boîte qu'il avait eues mais qu'il avait mis à la corbeille faute de temps. Toi, est-ce qu'il y a des idées, des problèmes que t'as eu envie de résoudre ou bon, finalement, parce qu'on peut pas être partout, t'es parti sur l'IFEN?
Alors ouais, plein et malheureusement c'est un de mes gros, on parlait de mes défauts, un de mes gros défauts c'est que je peux faire qu'une seule chose à la fois.
Généralement comme beaucoup d'entrepreneurs, tu peux pas.
Non, il y en a. Regarde, Elon Musk, il en fait, je sais pas comment, il est dingue ce mec quoi. Ouais. Je peux pas. Je fais qu'une seule chose à la fois et ouais, moi je passe mon temps. J'ai régulièrement en fait des idées. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça en fait, un peu des boîtes à idées en fait t'as tellement de choses qui fait plus, t'as tellement de choses à améliorer dans le monde quoi.
Je pense à Camille Thian qui lui met ses idées, il a lancé Logic Founders, il a revendu Payplug, et lui il met ses idées en ligne, et puis après bah, pour trouver les co-founders de toutes ces idées à travers son startup studio, je trouve ça intéressant. Je sais pas si t'as une idée en tête là que tu pourrais partager, que sur laquelle t'es pas allé ou a priori t'iras pas dans les 2, 3, 4 ans.
Moi, enfin oui, plein d'idées. Ben en fait, on n'aura pas le temps de développer le sujet, mais un des sujets qui nous concerne tous, c'est le réchauffement climatique. Et la question, c'est comment tu arrives à corriger le système financier mondial pour que en fait les initiatives individuelles de chacun soient alignées avec la neutralité carbone. Tu peux faire ça. Alors on va pas le développer là, mais tu peux faire ça, notamment grâce à la blockchain et parce qu'en fait c'est des t'as un moyen en fait de d'incorporer dans une monnaie des valeurs, ce qu'on pouvait pas faire en fait avec la monnaie sonore attribuante. En fait, tu peux faire une monnaie qui est programmatique en fait, qui implémente une politique donnée. Et bref, et donc voilà, si je faisais Polyphone, par exemple, je pourrais m'intéresser à ce sujet-là.
Donc la monnaie peut récompenser par exemple des comportements effectivement. Alors du coup, on arrive bientôt à la fin de ton émission, Franck. Et c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de succès et de on voit ton optimisme et ta capacité à continuer à être résilient, etc. Mais on imagine bien que sur le chemin d'un entrepreneur comme toi, il y a également des claques. Donc voici la rubrique La claque de Franck. Est-ce qu'il y a une claque que tu peux nous partager en toute honnêteté, qui peut être d'ailleurs personnelle ou professionnelle, mais dont tu t'es dit que t'en as tiré un enseignement et que ça vaudrait le coup quand même de la partager, sans forcément faire la fausse claque qui serait juste de dire que bah non, t'as pas eu de difficulté.
Bon, on peut parler peut-être du financement, mais que ce soit à Criteo ou chez Lifun, ça a toujours été un combat de financer l'entreprise. C'est jamais simple en fait. T'as toujours plein d'investisseurs qui te courtisent, mais quand vient le moment de faire le chèque, c'est là où tu vois qui sont les vrais supporters ou pas. Donc, en tout cas, moi, je sais pas comment font ceux qui disent, voilà, qu'ils arrivent à lever des fonds en 6 semaines. Moi, je sais pas faire. Moi, ça prend toujours un certain temps, un certain investissement et, c'est peut-être parce que les sujets sur lesquels on traite sont de cette nature-là, mais en tout cas, ça c'est une partie qui reste un combat à chaque étape d'arriver à convaincre que voilà ton projet est digne d'être financé, etc.
Plus facile quand on a une première réussite entrepreneuriale quand même.
Je pense que c'est plus facile pour le début.
T'es dans les chiffres, les preuves. On arrive au bout de cet échange, mais on ne se quittera pas sans féminiser un peu à notre manière le palmarès du Next 40. C'est le moment de la rubrique Sista et on va partager avec toi ton choix. Tu connais le principe, les entrepreneurs du Next 40 partagent avec nous une femme entrepreneur qu'ils aimeraient mettre en lumière parce qu'ils l'admirent et que c'est pas normal qu'elle soit pas encore au Next 40, donc on lui donne allez 2-3 ans et en attendant on la recevra au micro de Solène Etienne et maintenant on veut savoir qui.
Oui, ben en fait moi je voulais mettre en avant quelqu'un qui entreprend au secteur de la e-santé puisque voilà c'est un peu ma thématique du moment. Et du coup j'ai pensé à Florence Herry qui a cofondé Liberos qui est une plateforme, elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais qui développe très fort et donc voilà, donc c'était pour
Mais est-ce qu'il y a une question que tu aimerais lui adresser et dont on se fera le porte-parole avec Solène?
Alors plein, mais après si il faut en choisir une, comment elle attaque la question du go-to-market dans le secteur de la santé qui est si particulier et si difficile.
Très bien, une vraie question entrepreneur à entrepreneuse.
On lui posa, je crois qu'on l'avait d'ailleurs vu à un événement où 40 Nuances de Next étaient partenaires comme Aura, comme Neuflis, qui sont aussi des partenaires du podcast. Merci à toi, Franck. C'était un plaisir.
Merci à vous.
On aurait pu rester, je pense, encore une bonne demi-heure, une heure, mais un train t'attend.
Exactement.
Merci d'avoir partagé cet optimisme à transformer un secteur aussi monumental que la santé, mais qui préoccupe tous par définition.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.